With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Si on peut continuer à passer des bons moments, c'est grâce à MyCanal, le site et l'application de Canal+. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment pas mal. Je vous souhaite un bon moment.
Le soleil, c'est quand qu'il va exploser ?
4 milliards.
Non, il n'explose pas, mais d'abord, le soleil, il va pas exploser tout de suite.
Étoile rouge.
Il va juste gonfler.
Mais ça va nous
brûler.
On va brûler sur place.
Non, mais c'est des milliards. C'est bon, 4 milliards.
Ah ouais, attends, là, non.
Je crois que c'est 4 milliards.
Un peu, je crois qu'on a 2-3 heures.
Ouais, au moins. Le temps de faire le podcast, quoi.
Bienvenue dans un bon moment, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon fidèle buveur d'eau dans une tasse, Bruno Muschio, alias Navo. Comment ça va, Navo? Ok,
ça va. Yes. C'était une question de politesse ou tu veux vraiment savoir comment ça va?
C'était de la politesse.
Ok, alors ça va super.
Ah, ça fait plaisir dans cette bonne humeur estivale de Navo.
Et ouais.
Je suis accompagné aujourd'hui de non pas une, non pas trois, mais deux personnes.
Oh.
C'est vrai?
C'est vrai.
Vous n'êtes pas 1,
ouais.
Vous
n'êtes
pas 3.
C'est vraiment
non, pas 10 non plus.
Pour le coup, c'est vrai, vous n'êtes pas 10.
Non.
Vous n'êtes pas 27.
On est 2.
On accueille aujourd'hui Charles Soignon et Jérémy Netlo.
Oui, votre applause.
Bon, on se connaît bien. On se connaît. On se connaît depuis quoi? À peu près déjà plus de 12 ans, facile.
C'est ça. Hein.
Franchement, ouais.
Ouais, hein, depuis carrément les débuts.
Ah ouais,
les
bah,
débuts, débuts. Les débuts des.
Début de la scène pour moi.
Le stand-up.
Aussi, ouais. Toi aussi.
Bah ouais.
On se connaît aussi depuis le début. Ouais. Au bout, je me rappelle, tu jouais ton spectacle.
Ouais, faisais... quoi, alors quoi?
Ouais, au bout, il jouait son spectacle.
Ouais.
Il m'a demandé des conseils.
Des conseils, elle me donnait en vrai. C'est là que,
c'est
en
vrai,
plus, je t'ai validé.
Que je t'avais dit.
T'étais chez, t'étais au, tu jouais au théâtre de 10 heures à l'époque?
Non, le
spectacle
Croix Gamet?
Ouais, c'était le bout.
J'étais au bout, t'étais au bout rond. À l'époque, je faisais mes affiches moi-même, tu sais. Je sais pas si t'as connu cette affiche.
T'es là
comme
ça,
mais... Non, j'en ai une où j'étais comme ça.
Un peu là, genre perplexe, je me rappelle, la musique un peu perplexe. Non. Je suis l'humoriste, mais perplexe.
Je suis une graphiste perplexe, parce que c'est moi qui faisais mes affiches.
Je te la dis, c'est
ouais, mais quoi. Et à l'époque, on se connaissait, j'avais pas de locks encore. Et j'avais vraiment un truc, ça, SketchUp avec des. Oh là là, des noms par
SketchUp.
On m'a dit, tu skates du stand-up, je te laisse moi tranquille, je sais pas.
Ouais, c'était, on se voyait au Changeman à l'époque, le Changeman, ouais. Qui était une salle, le Café de Paris,
Café
comme
de
on
Paris,
disait
ouais,
à
ouais.
Ménilmontant.
La bonne Françoise.
Ouais, avec la bonne Françoise, ouais. qui nous a permis de faire. Tu étais là-bas toi aussi,
Moi, c'est le premier plateau où je me déplaçais, où je découvre.
Enfin,
c'était Lenny qui m'avait emmené là-bas. Et
à l'époque, c'était Lenny Harvey.
Ouais. Et moi, je me rappelle la première fois que je suis allé là-bas, je suis passé en 22e.
Wow, 22e.
Et je me rappelle un moment, j'étais un peu fatigué. Je me suis assis sur une chaise. Et elle m'a fait c'est pour les clients. Et je me suis relevé comme ça. Et je me suis relevé.
C'est drôle qu'il n'y avait pas de clients au bout de deux heures.
Déjà, ils partaient, il y avait le dernier métro.
Ils sont partis, les clients.
Changeman, premier vrai plateau.
C'était drôle, avec la petite cloche et tout.
Un verre de coca.
Ah,
une cloche qui dépassait les 5 minutes.
Oui, la petite clochette.
Bling bling, elle était derrière sa petite table et tout.
Elle notait les chronos et tout.
Il y a la dame pipi.
Plus drôle que les plats. Parce que tu pouvais, ouais, les gens pouvaient manger. Et c'était vraiment en mode, il n'y avait pas de consigne en mode, essayez de un peu écouter.
Ah, ça va télécoïne.
C'était en mode, faites-vous plaisir.
Les gens, ils parlaient.
Vrai qu'à
ça. Ça nous a formés là-dessus.
Ouais, ouais.
Oh, c'est chouette.
Moi, les gens qui parlent.
Je sais que je suis tombé, je suis retourné juste pour le fameux dicton, si tu tombes de cheval, remonte. Et
retombe.
Ouais. Ouais.
Et si tu retombes,
il n'y a pas de retombe.
Fais gaffe à ton dos quand même. Ouais, fais gaffe à ton dos. C'est quand même pas ouf. Les lombaires, tout ça. Non, c'est vrai que c'était les années 2005 à 2010. Ouais. Ça a été en fait, c'était juste post-Jamel Comedy Club.
C'est vrai.
Donc ça a enfanté toute une génération de stand-uppers et stand-uppeuses comme nous.
Mm.
Et on était en mode, ah ouais, ok, on va dans les scènes, on joue, on savait pas trop ce qu'on faisait à l'époque.
Ouais, c'est marrant. Je me rappelle, on avait fait genre avec Boone comme ça une date à Argenteuil, qui était une catastrophe d'ailleurs. On était 10-12 à y être allés, il y avait Nadia Rose et tout. Et on s'était tous pris un four et on s'était vendus comme la troupe du Jamel, mais pas vraiment de Jamel, tu vois. Genre, il y a un noir, il y a un chinois, il y a tout ce que vous voulez.
Sur l'affiche, il y a marqué Jamel Comedy Club. Je me suis marqué, ils font comme eux. Ils font comme eux en tout.
On s'est pris une race. C'était marrant cette époque-là. Et moi, je me rappelle aussi de l'Arcafé.
Avec Seb Melia qui présentait l'Art Café, ouais, qui faisait son petit plateau là-bas. Ouais.
Comedy School. Ça
Comedy School.
Ah, moi, c'est à l'époque où j'étais un peu timide et j'allais pas, je faisais pas les plateaux, je faisais que jouer mon spectacle dans mon coin. Et je regardais de loin sur les réseaux, je faisais ça a l'air bien, mais je suis trop timide pour aller là-bas. Mais
j'arrive pas à faire 10, mais une heure, c'est sûr, c'est bon.
Ouais, ouais.
Mais avant, il y avait avant l'Art Café, parce que l'Art Café, c'est la seconde main. Seb Melia, il avait repris un truc qui était genre un truc avec des gladiators. Tu te rappelles ou pas? Avec Dyrix.
Oh la vache!
Tu te rappelles de Dyrix?
Oui.
Et ouais, Dyrix. Oh. Tu sais, il y a des blagues comme ça qui ressortent. Tu te rappelles de Dyrix?
On dirait des vieux qui ont fait la guerre là.
Non, c'est clair.
Tu te rappelles à l'époque?
Ah, c'est fou.
Dyrix, ça dit quelque chose.
En fait, je
me
rappelle sans m'en rappeler. Je me rappelle de cette troupe là et. J'ai pas la tête du gars, mais Dyrix, oui, le nom, ça me parle.
Ouais. Et en fait, il y avait un plateau et c'était Open Your Mic. Open Your Mic.
C'est bien,
Open Your Mic. Open Your Mic, les soirées Open Your Mic.
J'ai pris trop de trucs entre temps. J'ai une mémoire qui est vraiment. Je me rappelle presque de toi, tu vois, je crois savoir.
Mais c'était quoi ces débuts? Est-ce qu'ils sont importants ces débuts? Est-ce qu'on en garde quelque chose en fait au final? Quand aujourd'hui on joue tous les soirs et tout, est-ce qu'on en garde quelque chose de ces moments-là?
Ouais, de ouf. Moi, ce que je garde en tout cas, c'est l'idée de. Bah, le bide. On avait des vrais bides. Tu vois, ce vrai bide où tu
rentres
chez toi.
C'est pas parce qu'il n'y avait pas de symbiose, c'est parce que c'était pas marrant.
Non, c'est pas marrant, et tu sais. Moi, je me rappelle avoir fait une scène comme ça où j'avais écrit 15 minutes en 15 minutes.
Ouais. Ce qui n'est pas un gage de qualité généralement.
Genre dans le RER avec Candy, on était là. Attends, c'est trop marrant tes trucs sur les fans de Claude François, tu vas cartonner. Pour un concours d'humoriste au Gilibus. Et j'avais dit, vas-y, dis à Noom de venir, parce que Noom c'était une star pour nous à l'époque. Qui me disent ce qu'ils pensent et tout. Et 15 minutes de silence avec moi qui tient une feuille en tremblant. Et en me rendant compte que c'est pas marrant, parce que je suis en train de lire des messages que des fans de Claude François ont laissés sur des forums. Donc je me moque de gens, tu vois, c'est nul à chier quoi, pendant 15 minutes. C'est là, wow, et des pages, quand t'entends des pages qui se tournent sur scène. Et non, mais il a dit, elle a de l'énergie, hein, mais c'est chaud. Ah, c'était des scènes, c'était une époque, ça. Ouais. Donc ouais, moi, ce souvenir-là que j'ai, c'est les beats de me rappeler que ça n'arrivera plus jamais comme ça maintenant.
Ouais.
Moi, mon premier beat, il m'a marqué. Mon tout premier beat, ouais. En plus, t'étais là.
What?
Mon premier beat, genre, c'est la troisième fois que je monte sur scène. Genre, je me rappelle la première fois que je suis monté sur scène, je suis monté en mode innocent en me disant, à aucun moment je me suis dit, si ça se trouve, tu vas bider. Je suis monté sur scène vraiment en me disant, ça va bien se passer, c'est drôle, et effectivement, ça s'était bien passé. Genre, je me suis dit, ah waouh, je suis un boss. Vraiment, j'ai commencé à me dire, à mon avis, prochain Gad Elmaleh, prochain truc, c'était moi. Genre, deuxième, ça se passe trop bien, je suis un génie, ça se passe bien. Troisième fois, je travaille pas mon texte, je relis pas. Je me dis juste,
La confiance.
J'ai pris la grosse tête. Le dieu du rire, il m'a dit, toi, je vais t'apprendre la vie. Je monte sur scène. Et je commence j'avais un sketch où j'étais dans la peau d'un vieux et il s'évadait de sa maison de retraite pour aller en boîte. Et je commence mon sketch en mode vieux, où j'ai une canne et tout. Et là, je dois dire la première phrase et je ne m'en rappelle pas. Je bloque. À l'époque, c'est ma troisième scène, je ne connais pas le mot improvisation. Donc, je reste peut-être 40 secondes. C'est long. C'est beaucoup trop long.
Le temps pour expliquer aux gens quand t'es sur scène et qu'il y a un bide. Une seconde, c'est quoi? C'est deux ans?
Et dans la salle, il y a quoi? Même pas 20 personnes. Et genre, je sais que t'es
et
là.
Et moi.
Je sais que t'es là. Et je suis là, genre, je galère. Genre, je fais, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas. Et je me rappelle, je me tourne. Je tourne, je donne mon dos au public. Et je fais, je me rappelle pas. Je reviens, je fais... J'improvise un vieux truc, c'était « Je vais prendre mes comprimés pour la mémoire. » La tristesse du truc.
Les gens attendent encore les vannes.
Est-ce que ça a été filmé, ça?
Non, heureusement, je sais pas.
T'as de la chance que j'ai pas de mort de ouf.
Mais, et après, je retrouve mon texte, je pars. Et à l'époque, en vrai de vrai, c'était mes premières écritures, mes premiers trucs. Donc, je suis déstabilisé. Il y a des longueurs. Je passe deux heures. Un spectacle, c'est pas censé durer deux heures à l'époque. Ça dure deux heures, c'était horrible. Et je retourne dans la loge. Et il y avait Bérangère qui était là.
C'est vrai.
Bérangère, je sais plus, c'est la deuxième ou la... Non, elle a validé un sketch. Elle vient me fait ça va, c'était bien, mais je vois dans ses yeux qu'elle est en mode de truc. Et après, il y a Charlie, elle me fait, t'es pas bien. Et c'est... Sans pitié, et c'est là que je l'ai validé, je me suis dit, c'est une vraie. C'est super important.
Tu peux pas mentir aux gens, ils le voient dans tes yeux, ils le savent aussi.
À chaque fois,
Tu peux pas dire à un gars, c'était génial, vraiment, il y a du boulot, t'es là, c'est
Le fameux oui, le... Ça, le...
Ouais,
mais moi, j'adorais. Souvent, j'attends que les gens me disent quand c'est pas bien. Quand c'est bienveillant, ça
ouais,
tu
en
le
fait,
ressens.
Ouais, en fait, il faut s'entourer.
Et tu te prends pas mal. Mais c'est quand les gens te font la petite table de « bien ». Dis-moi que c'était pas bien. La table dans le dos, ça veut dire l'inverse. Donc...
Mais ça m'a... Ce bide-là, il m'a appris. Je fais plus jamais de ma vie, je remonte sur scène sans avoir bossé.
Et au moins, ça revu son texte un petit peu.
Ouais, au moins, les différentes parties de...
C'est exigeant, la scène. C'est un art qui est exigeant. Ouais. C'est un art où la confiance est hyper importante, mais la surconfiance,
ça te tue.
Il faut toujours une petite insécurité avec la scène. Il n'y a pas de...
100% sûr, et toujours un petit tu vois.
Je vais changer ce petit passage où je vais rajouter ce petit truc pour mettre la.
C'est pour ça que commencer par 2 heures, c'est.
Pour moi, c'était naturel.
Hein. Mais comme beaucoup. C'est
et tout ce qui est pas travaillé va mal se passer sur scène.
Ouais, c'est ouf.
Il y a pas genre maintenant. Alors, je t'ai vu, je te vois évoluer depuis quelques années. Maintenant, Shirley, d'ailleurs, c'est impressionnant. D'ailleurs, aller vraiment voir Shirley travailler le mardi soir dans les stands de privé ou Barbès. Non, parce que tu montes sur scène et c'est là, t'es en art suprême. C'est-à-dire que t'es en discussion à bâton rompu avec les gens.
Hier, c'était fou ce que j'ai kiffé. Il fait 1 heure comme ça.
Incroyable.
Une heure où j'étais là, désolé, je devais faire 10 minutes. Je les attendais derrière Baptiste et tout. Je fais 1 heure. Et avec 4 blocs d'idées et je leur ai parlé. C'était ouf, c'était trop bien.
Et le lieu se prête bien à ça. Parce que j'ai fait ça quand tu m'as invité à la soirée. J'avais 3 idées pareilles. J'étais là, genre, et j'ai fait 15 minutes, alors que je voulais faire juste 4 ou 5. Et en fait, le temps. En fait, c'est bien, c'est que tu peux. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Richard Pryor, qui était très connu aux États-Unis à un moment donné, et qui a dit il était en plein Las Vegas, en plein truc de ouf. Et à un moment donné, il a dit tu sais quoi, laissez tomber, je veux plus faire rire les gens en plein milieu du spectacle. Il s'est barré. Et il a fait une sorte de traversée du désert et il s'est remis dans un bar. Et il a travaillé comme ça dans un bar en développement du matériel, ce qu'on appelle du matériel, c'est des blagues. Et du coup, il a commencé à travailler des blagues et c'était hyper impressionnant. Et il est revenu avec un style complètement original, c'est-à-dire lui-même.
Ouais, j'en mets, ouais. C'est vrai ça, ma démarche avec Lego Barbès. Hein. C'est vraiment la démarche de créer un club pour pouvoir m'entraîner comme tu vois, un ninja tous les jours pour faire le stand-up que je veux. Parce qu'il y a 10 ans, en fait, c'est vraiment le jour où tu m'as passé ce disque dur avec Baptiste et j'ai découvert George Carlin à l'intérieur. Depuis ce jour-là, j'étais là, je veux être comme ce mec. Mais pour être comme ce gars, il va falloir que tu bosses.
Il faut faire 30 ans, d'audace.
Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, t'as le temps. Donc, monte un comédie club, prends le temps de t'entraîner dedans. Crée la concurrence, comme les Navos. Crée la concurrence, bats-toi avec eux. Et puis, j'ai 34 ans. Dans 10 ans, on va pouvoir s'amuser vraiment.
Non, c'est déjà très, très haut. Le level est très haut.
Moi, je m'amuse, mais j'ai envie de...
Tu te rappelles le Gala Bref à Montréal, quand Shirley était venue nous rejoindre à Montréal pour faire le Gala Bref? Rappelle déjà là t'avais pris un level là
oui, je m'en rappelle,
le spectacle
quand
Netflix
ça m'avait fait du bien
spectacle Netflix en plus t'étais dans des phases t'as beaucoup hésité dans ta carrière quand même d'arrêter
tous les jours
ça fait combien de temps que Shirley voulait arrêter c'était la fois que Shirley voulait arrêter c'était quand
c'est souvent qu'elle veut arrêter faut lui dire oui
il y a 6 mois
faut lui dire oui vous avez écrit ensemble toi et Navo vous avez écrit ensemble
ouais bah ouais
après je voulais arrêter
On est des frères. Hein.
Ouais, de ouf.
Et du coup, Charlotte, j'ai vite compris que quand elle veut arrêter, il faut lui dire oui, arrête. Parce qu'en fait, elle revient. Mais je pense que c'est un truc, c'est tatoué sur son bras, quoi. C'est la liberté. Il y a ce truc où ce besoin de dire j'arrête pour de vrai. C'est pas je fais une pause. C'est genre non, mais c'est bon, j'arrête. Et après, elle dit.
Oui, parce qu'en fait, tu sais que c'est ta vie. Ça me fait un peu ça avec mes relations humaines, aussi sentimentales, tu vois. Le côté engagement, dire ok, ça va être toute ma vie, ça. J'adore ce truc, c'est toute ma vie. Il faut que j'aie ce truc de rupture, revenir pour dire je t'aime moi non plus, quoi.
Pour que je sois à l'aise, pour que ce soit toute la vie, faut que je me prouve que c'est pas obligé que ce soit toute la vie.
C'est exactement
un choix, quoi.
Totalement. Et donc la prod m'a beaucoup aidé à moins avoir envie d'arrêter. J'ai plus envie d'arrêter la prod maintenant.
Elle trouve un autre truc à arrêter.
Ouais, tu vois, un peu ça, mais le côté soupape, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement un vrai boulot d'être prod. Que le soir, je suis contente de juste faire des blagues et parler, donc je commence à arrêter de faire mon mélodrame de j'arrête. Parce qu'en fait, c'est mon seul moment de décompression.
Ça veut dire que là, elle est dans la phase où elle a pas envie d'arrêter.
Mais dans 6 mois, elle va dire c'est l'obligation. Est-ce que c'est l'obligation qui génère ça, le côté genre je suis obligé et moi ce que j'ai envie, c'est de pas être obligé dans la vie, pas être obligé, pardon.
Ouais, ouais. Et puis il y a plein de choses que j'ai envie de faire et que je m'interdis parce que tu vois, je parlais de musique sur scène d'ailleurs au Barbès la dernière fois. Et c'est hyper intéressant ce truc de liberté. Enfin, on est humoriste à la base, mais on peut proposer d'autres choses artistiques. Et
à la base, notre humour, c'était une proposition déjà.
C'est une proposition artistique, c'est ça. Et on peut en faire d'autres, des formes. Et donc, c'est-à-dire d'être enfermé dans une forme avec une façon aussi de penser le stand-up à une époque. Nous, ça a évolué, mais grâce à nous aussi, parce qu'on change la donne en montant des clubs, en montant des produits.
Alors, pour expliquer aux gens, tu as monté le club, le Barbès Comedy Club, qui est rue Léon. Rue Léon, c'est ça?
Oui, rue Léon, absolument.
Rue Léon à Barbès.
Ouais, et l'idée, c'est ça. C'était de créer un lieu dans lequel on puisse s'entraîner et faire du stand-up comme on l'entendait. Dans cette idée de... Parce qu'en fait, dans cet côté obligation, c'était aussi... quand j'ai découvert George Carlin et tout, quand j'ai vu le stand-up américain, comment il bossait, je me suis dit, mais en France, on fait pas ça. On va très vite au spectacle.
Oui, c'est vrai.
Tu vois et du coup, j'étais là, si ça n'existe pas, faisons-le. Et voilà, donc je prends ce temps-là et j'aime le stand-up.
Toutes les étapes intermédiaires qui manquaient, tu les as créées en fait.
Et ça fait que je suis plus à l'aise avec mon métier aussi.
T'as créé ton média.
Voilà, parce qu'il y a ce côté aussi, je voulais arrêter parce que tu te sentais pas à ta place.
Ouais.
Il y a aussi ça. Donc j'ai créé ma place pour m'y sentir toujours bien. Tu vois.
T'as dit, on va pas attendre que les autres le fassent, je vais le faire.
Mais oui, c'est ça.
Parce que t'es quand même une artiste.
Parce que j'aurais vraiment pu arrêter.
Ouais,
mais j'aurais vraiment pu arrêter parce que je dis, ça ressemble pas à ce que j'aime, ce qui se passe dans. Tu vois, de faire télé-spectacle. Genre, moi, j'aime bien la télé, mais c'est un moyen de communication auprès de, du monde. C'est pas ton travail principal, tu vois. Moi, c'est la scène, c'est vraiment terre-terre, quoi. Barbès, c'est aussi ça, le signe. C'est en mode, c'est la rue, mon gars.
Bah ouais,
tu vois, on est ensemble, populaire. C'est en ensemble, quoi. C'est hyper important pour moi. C'est un spectacle vivant. Et donc, il dit vivant, dit des gens en face de toi. Et je me suis très vite rendu compte que la télé, la notoriété, c'est pas un truc qui me plaisait spécialement. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me m'attire pas.
Pourtant, t'avais l'air épanoui. Hein. On ne demande qu'à en rire avec tes perruques.
Alors, on ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce
que c'est tout quoi l'argent dont on demande qu'à en rire est passé en thérapie, mon ami. J'ai perdu tout en thérapie. Mon meuf fait.
C'était une opération blanche.
Pour qu'elle m'explique, au bout de 3 ans, vous avez le droit de pas aimer la télé. Je te dis, mais ouais, c'est vrai, j'ai le droit de pas aimer être. Parce que les gens te disent, mais vous avez de la chance d'être à la télé, vous êtes connu, c'est super. Mais en fait, tu mets des perruques. T'es là, moi, je voulais faire George Carlin. Là, je suis en train de faire. Tu vois, donc, c'est pas le problème de la télé, c'est le problème de pas être à sa place et de pas savoir, parce qu'on a commencé super jeune, savoir dire non. Ça s'apprend, tu vois, aussi dire non, ça j'aime pas, ça j'aime. Mais il faut expérimenter plein de choses pour dire, ok, ça je sais que j'aime pas, ça je sais que j'aime. Donc,
c'est dur quand même, la télé, encore une fois.
C'est dur à faire, ouais.
D'avoir une proposition toutes les semaines à faire où t'es jugé.
Ouais, de ouf.
C'est pas genre.
Noté, ah, c'était le pire pour
t'es mis en
commencer.
Valeur dans le sens, on va l'accueillir, si il va nous proposer quelque chose de formidable, on le sait, on en est sûr, c'est on va voir ce qu'il a pensé du sujet. Et c'est la classe, quoi. C'est la classe,
c'est vrai,
t'as écrit ta poésie.
Ah, mais on peut pas dire, là-dessus, j'ai appris de ouf, tu vois. C'est-à-dire qu'écrire toutes les semaines comme ça, j'ai une espèce de dextérité du cerveau pour écrire rapidement. Qui est incroyable avec ça. J'ai fait, en même temps, je faisais Europe 1 tous les
chez
samedis.
Anne Romanoff.
Chez Anne Romanoff, tous les samedis. J'ai fait tous les trucs vraiment qui n'étaient pas mon milieu principal. Toi. Et ça m'a appris énormément de choses. Donc, Ruquier, Jamel Comedy Club en tournée. Donc, j'avais une densité de travail qui était ouf en même temps. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, j'ai explosé, implosé un peu. Alors, c'est là que je dis à Davos, ça fait beaucoup, là, je suis fatigué.
Genre en mode burn-out, tu veux dire?
Ouais. Ouais, ouais, un vrai burn-out, ouais. Ben là, j'ai dit, je vais arrêter, je vais faire deux dos. Mais ça a duré 3 jours. Je même le burn-out, j'ai pas réussi à bien le faire. J'ai pas le temps de faire un burn-out, j'ai pas le temps. Ça a duré 3 jours, je me suis relevé, j'avais une tournée, j'étais là, il faut que je parte en tournée.
Et là, il y a ce Barbès qui est là, qui a popé en plein Barbès, justement.
Ouais.
Et un endroit de ouf, quoi. Bienveillant, on peut venir tester. Moi, j'ai discuté avec les gens. J'ai dit aux gens, voilà, j'ai rien de prévu, mais on va discuter ensemble. Est-ce que vous avez des questions? On a parlé. Poser des questions et c'est vrai que je me suis senti libre de créer.
Mmh. Et on est au coin du feu, il y a vraiment un truc.
Il est vraiment cool parce que moi, pour l'avant-première,
ouais.
Genre j'étais venu juste pour donner de la force et tout, j'avais pas prévu de jouer, elle me fait je t'ai mis sur la liste et j'avais une flemme, j'avais pas envie et en voyant les gens dans le décor et tout, ça m'a commencé à me titiller. Je fais, j'ai envie, c'est beau, ils sont beaux dans ce cadre. Et après, je suis monté sur scène et j'ai trop kiffé. Ça avait vraiment, ça faisait vraiment le comedy club comme quand je suis allé à New York. Genre, j'avais l'impression que j'avais envie de parler aux gens.
Barbès de New York.
Non, mais vraiment, c'était vraiment...
Jerry Seinfeld est venu au Barbès Comedy Club. C'est quoi, c'est arrivé comment ça?
Écoute, il était en week-end à Paris pour son anniversaire de mariage.
Donc le gars, il fait un anniversaire de mariage, il faut qu'il aille jouer quand même.
Voilà, et il s'est dit, tiens,
c'est bien qu'on ait un moment qu'il est là, enfin. Ouais, deux secondes, à 18h, je vais faire un truc.
Tu connais Barbès?
C'est ouf.
Allez, imaginez Paris, la Tour Eiffel.
Jessica Seinfeld, la Tour Eiffel. Non, Barbès. Ils ont été adorables. Ils ont kiffé vraiment l'ambiance. Et puis en fait, c'était le seul plateau en anglais qu'il y avait ce jour-là. Donc ils nous ont contacté direct. C'est Marx m'a dit il veut venir. J'étais là, vas-y, grave. Mais prends pas de chapeau.
Au dernier moment, au dernier moment, tu dis non.
Ouais, normalement, c'est pas.
On avait dit on prévient 3 jours avant. Donc tu dis à Jerry.
La veille, vraiment la veille pour le lendemain. Et j'étais évidemment avec plaisir. Qui va dire non à Jerry Seinfeld? C'est ouf. Et j'ai kiffé parce que comme c'est un petit lieu. Il y a un truc qu'ils n'ont pas. Je pense qu'un si petit lieu, ils n'ont pas ça aux États-Unis. C'est très petit.
C'est
vraiment.
Très petit, ouais.
Il a dit
ouais.
C'est une maquette pour nous, c'est une maquette d'un comedy club. Il a une maison de poupée, il a dit. C'est dollhouse. Je fais le bâtard.
Alors qu'en vrai, pour moi, c'est le standard, c'est un classique.
Mais en fait, je me rends compte que ce truc est fait à ma taille, vraiment. Si quelqu'un est plus grand, il dépasse de la scène et tout. C'est que pour moi, cette scène. Elle a été faite à ma taille. Bref, et du coup, il nous a bien vanné. C'était un vrai baptême, quoi. Mais j'ai vu aussi quelqu'un chercher où est-ce qu'il allait aller 2 secondes après. Genre Jerry Seinfeld, et j'ai trouvé ça chambé. Et ça, c'est la proximité, la petitesse de cette salle, tu vois. Parce qu'on te voit, on voit tout. T'as pas le temps, le rire est pas assez long pour que t'aies le. Donc il y a eu ce petit moment de. Attends, je vais où là? Et j'ai kiffé ce moment de voir Jerry faire fuck, il y a quoi après? Tu vois, c'était une fraction de seconde.
Ouais, carrément, ouais.
C'est une fraction de seconde très jouissive où je suis là, ok, c'est cool, le club est bon.
Mais d'ailleurs, cette façon de construire un spectacle, parce que nous, ça nous paraît évident parce qu'on est dedans depuis longtemps, mais pour les gens que ça intéresse, je sais où je suis là, pour les gens que ça intéresse, je conseille Dan Gagnon qui avait fait un truc super.
Ah ouais.
C'est qu'en fait, lui, du coup, il a fait ce, un peu comme toi, l'heure dernière que tu as fait, sauf que lui, il se les est forcés. Donc lui, il allait au King's Comedy Club, c'était à Bruxelles à l'époque. Il avait réservé 1 heure, 4 ou 8 fois, je ne sais plus combien de fois, tous les lundis, un truc comme ça. Tu vois, il a dit toutes les semaines, moi, sauf qu'il écrivait que quelques idées. Et donc, chaque semaine, il faisait une heure complète où les gens étaient prévenus, c'était gratuit, qu'il enregistrait. Et en fait, il en a fait un podcast qui s'appelle Making Troisième, je crois, Making au Troisième Spectacle, où en fait, après, il s'auto-analyse. Donc, en gros, okay, tu as toute son heure.
Trop bien.
T'écoutes après, toute l'heure qu'il a fait sur scène et après t'écoutes ce qu'il va en garder et lui dit en gros si j'arrive à tirer 3-4 minutes de cette heure là j'avance sur mon prochain spectacle
c'est
et donc de voir la démarche de dire il développe des idées, il voit où ça l'emmène, il improvise des trucs et de l'entendre après se réécouter et dire ça.
Surtout
c'est
analyser,
pas mal,
c'est intéressant de voir comment tu peux analyser
ouais c'est ça, c'est l'analyse qui est cool quoi, c'est d'avoir l'analyse après. Donc
ouais,
ça prend
moi
un peu
je filme
de temps,
tout
mais ça c'est un luxe hein, de se dire parce que sur un plateau normal, si t'as pas ton propre lieu, si tu peux pas,
faut oser aussi.
Ben,
hein.
Ouais, il y a ça aussi, mais.
Ouais, bah lui c'est pour lui parce qu'il s'entendait très bien avec le Kings of Comedy et puis après il gère plutôt bien. Puis ça a dû arriver une fois ou deux où en gros ça marche tellement pas. Qui dit ceux qui peuvent rester, je vais faire du matos sûr.
Ceux qui peuvent rester.
Comme, tu vois, au bout d'une heure, il dit bon, là normalement c'est fini mon heure, mais là à l'heure d'après il y a rien. Franchement, je vais vous faire au moins une demi-heure de trucs sûrs parce que là vraiment il y avait pas grand-chose. Tu vois. Donc c'est intéressant aussi,
c'est
tu vois,
bon
ce
effet,
rapport.
Ça libère en plus, ça désacralise à fond la scène. Le côté genre, il faut absolument faire rire les gens. Le côté, je peux pas avoir de temps sur scène.
Si tu trouves ton vrai delivery pour moi.
Exactement. Et il y a une grande tendance dans les plateaux parisiens à faire des blagues, 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 blagues. Et en fait, pendant 5 minutes, tu bouffes que des blagues et tu sais pas ce que t'as vu, mais t'as rigolé. Et il y a une peur du silence terrible. Et je pense que dans des endroits comme le Barbès, on peut apprendre à se taire.
Imposer,
tu vois.
Ouais, complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis là-dessus. Parce que le micro ouvert que j'ai ouvert pour ça, d'ailleurs, c'est.
Alors, c'est quoi micro ouvert?
Micro ouvert, c'est une scène ouverte, en fait, où les jeunes humoristes peuvent venir s'entraîner sur les 3 minutes, en général. Il n'y a pas d'inscription. Tu viens et tu fais la queue. Et on prend les 16 premiers qui sont. En file indienne, tu vois, on essaie de aussi discipliner les Français parce que putain, les files d'attente, ils sont là, ils se grugent entre eux. Je suis là, les gars, c'est pas cool, soyez sport, quoi. Donc là, ça commence à être un peu plus discipliné, sport et tout. Et du coup, c'est vraiment, je leur dis, les gars, parce que souvent, quand je passe dans la salle, ils font il y a Shirley, il faut faire un truc sûr et tout.
Ça y est, t'es une personne qu'on chuchote maintenant.
Ah, c'est horrible, Shirley, tout. Je suis arrêté, les gars.
Mais parce qu'il y a cette tension sur les autres plateaux, c'est
bien
que t'as quand même cette peur, tu dis, j'aimerais bien tester, mais si je me plante, ils me rappellent pas pendant
et
un mois.
Et donc, moi, je leur rappelle que de toute façon, on les appelle pas ceux qui viennent. On les calcule même pas. Je leur ai dit, moi, chez moi, il faut se planter. Hein. Parce que si tu ne prends pas de risque, tu vas être un humoriste qui prendra jamais de risque. Si tu commences pas dès le départ à le faire, nous, moi, je connais, ça a été très dur de faire la machine à inverse.
C'est dur, hein.
C'est dur parce qu'on a pris des trucs par cœur pendant des années.
Ouais.
Et du coup.
Alors, juste faisons une petite pause, soyons un peu didactiques.
Ouais.
Quand tu commences une carrière, tu cherches déjà d'abord à être drôle. Donc, tu trouves des ficelles, des blagues et tout.
Totalement.
T'en fais un patchwork, ça fait 5 minutes.
Ouais.
Et tu fais le tour de Paris pour dire, regardez, je suis marrant.
En un mois, ça.
Non,
sur 5 minutes, il se construit tellement de temps.
Pendant 2 ans, après, t'as un quart d'heure. Mmh. Et après, tu restes prisonnier là-dedans parce que tu veux plus... Parce que tu veux être le top de la soirée.
Mais normal.
Ouais.
Et puis encore une fois, il y a une époque où vraiment on te rappelait pas.
Ouais, on te
rappelait. Ces gens, on dit, bah lui, il est moins fort, du coup, on va. C'est ce qui est normal, en fait.
Ouais, c'est vrai,
il y a
un marché. Mmh. C'était l'histoire de gagner 20 à 100 balles par semaine, tu vois, d'argent,
c'est
un peu. Parce que de l'argent, c'est du cash.
Mmh.
Et il y a ça, il y a à côté, et ça devient un piège. Donc en fait, tu deviens un peu bourgeois de tes blagues.
Totalement.
Ou même quasiment rentier de tes blagues, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est terrible. Tu as des tubes, quoi.
Voilà, t'as des tubes.
Je mets tubes à la télé, je faisais.
Et dès que tu testes, les gens t'en veulent.
Et des fois, genre, t'arrives avec la mentalité.
Et t'es pas connu, c'est ça le pire.
Des fois, t'arrives avec la mentalité, je vais tester. Tu vois deux mecs cartonner avant et tu dis non, je reviens sur mon tube.
Exactement.
Et ça, c'est ce truc-là.
Tester, ça veut dire amener des nouvelles blagues qui n'ont jamais été faites en public.
Ouais. Ouais. C'est pour ça que maintenant, c'est presque entre guillemets une obligation. Au micro ouvert, dans le sens où quelqu'un. Si, moi, je conseille souvent les jeunes qui arrivent et qui jouent. Ça fait 5 fois, 6 fois que je vois faire le même sketch. Sans évolution en plus de travail et tout, je lui dis franchement, change de truc, plante-toi, tente un truc. T'as 3 minutes, vous avez le droit de partir au bout d'une minute si vous voulez. S'il n'y a plus rien, genre prenez ce temps-là, cassez-vous les gueules. Moi, nous, on n'est pas là pour vous juger, on est juste là pour vous donner
de
l'amour.
C'est tellement stylé de faire ça.
Parce
c'est
que je suis humoriste. C'était mon rêve il y a 10 ans. En fait, je leur ai dit aux copains, je leur ai dit, en fait, j'ai monté un club que j'aurais voulu avoir il y a 10 ans, 12 ans quand j'ai commencé.
Ce qu'on a un peu fait au Bordel Club à l'époque.
Ouais.
Voilà.
J'avais parlé de ça aussi, parce qu'au début, genre, quand j'ai rejoint le set qui a repris le Bordel. Au début, je faisais le sketch, je crois que j'ai fait un sketch pendant quasiment un an.
Ouais, bien sûr.
Le même
tous
truc.
Les soirs, je te voyais,
les gens, les gens, ils ont commencé à se plaindre et tout.
Se plaindre.
Tu vas encore
se
faire
plaindre un spectacle gratuit.
Tu vas encore faire celui-là, oh là là. Et après, je me suis remis en cause, je fais, j'avoue, je peux pas rester dans ce truc-là. Et du coup, t'es obligé au moins de te faire violence. T'es obligé de te faire violence et de dire, ben oui, il faut que j'écrive, je vais pas rester dans mon confort et
bien
tout.
Sûr.
Mais c'est vraiment un délire de dire, je vais dévier, je vais... changer, de sortir de ce truc-là.
Mais surtout au début, parce que, parce que ce genre de truc-là, de dire, OK, là, j'ai ce sketch qui fonctionne bien, ce passage qui dure 10 minutes, tu le fais quand tu es en promo d'un spectacle. Mais en fait, quel gâchis quand tu débutes de faire 10 minutes qui sont super, et quand les gens ils te disent, on peut voir autre chose ? Non, j'ai que 10 minutes,
moi, c'est ce que
je viens de te donner tout ce que je sais faire.
Okay, ça, c'est vrai. Il n'y a plus rien.
C'est genre, tu fais un single et tu
c'est
fais pas d'album.
C'est pour ça qu'il faut 3 à 5 ans pour naître en tant qu'humoriste.
Totalement.
Il faut 3 à 5 ans, c'est long.
Ouais, c'est en dessous de 5 ans, les gens qui viennent au club avec des flyers, je leur dis, en fait, si tu as des flyers...
T'as des Le Caplin, qui sont des exceptions nées. Parce que Le Caplin, il a fait son premier spectacle, il avait déjà un tempo de ouf, il était déjà trop fort.
C'est vrai, il avait déjà cette folie-là, il avait trouvé le truc, quoi.
Est-ce qu'il s'était pas entraîné des années tout seul dans un coin?
Il avait fait les Club Med, des trucs comme ça. Il avait fait les Club Med, il faisait de l'animation à Levallois, je crois.
Mais genre, ça n'était pas aussi rapide que ça non plus, Caplin. Il avait fait
Le Caplin, en 3 mois, il avait un spectacle. Hein.
Spectacle. Mais moi aussi, j'ai un spectacle après.
Non, mais il a lancé son spectacle tout de suite, quoi.
Ah, ok, je me rappelais pas de ça. Avec les coups, il se regardait dans l'affiche, là, comme ça, c'est le premier truc.
Baptiste se tape l'affiche et il marchait dans le caca. Et ça, c'est formidable d'avoir cet endroit maintenant où on peut se tromper. Et la philosophie, c'est trompez-vous.
Trompez-vous.
Ne soyez pas les meilleurs ou ne faites pas semblant d'être les meilleurs.
Totalement. Parce que personne ne vous juge, là, à part le public.
Mais puis le public est là pour kiffer.
Ouais. Non, mais vraiment.
Mais en vrai.
Je pense, mais ça amuse beaucoup un humoriste de pouvoir s'amuser à tester. C'est juste qu'il a peur d'être jugé par les autres humoristes. Et donc, nous, on a fait un.
Moi, le premier. Mais normal. Je suis arrivé la dernière fois, il y avait des mecs trop forts qui avaient juste 2 ans de stand-up. Moi, je suis là, je fais putain, je suis censé être bon ce soir. Et en fait, je suis là, genre, je vais faire du sûr, je vais faire du nouveau. J'avais peur.
Et c'est hyper intéressant aussi d'être avec des gens qui ont un niveau, une expérience, un temps d'expérience moins grand que le nôtre, et qui t'apprennent, quoi. Genre, moi, je trouve que c'est un truc sportif où, tu vois, il y a un vrai truc de « Ah, ça fait du bien que le mec me donne une petite claque. » C'est aussi nos petits bides à nous, en fait. Parce qu'on n'a plus le bide, le silence. Donc, c'est notre petite « Ok, continue de bosser, revenir en comedy club. » Ils ont une rythmique, en plus. Tu as une musicalité dans les clubs qui change tous les 2-3 mois. Genre, vraiment, si tu pars de comedy club et que tu reviens, l'humour a changé, la façon de parler a changé.
Stylé.
C'est un délire. Et donc, faut pas se louper, quoi.
Ah ouais, t'as raison. Ouais. Rémi, tu faisais 5 minutes,
Moi, c'était par rapport à la peur du bide de se lancer et tout. Et genre, tu m'avais donné un conseil, genre en mode, ça fait partie du taf. Et ça m'a fait tilter. Mmh. On était au Paname. Mmh. Tu m'avais dit ça. Et je fais, en fait, c'est pas grave. En vrai. Ouais, je vais le prendre comme ça. Ouais, et je te jure, ça m'a fait un déclic. De me dire, j'ai bidé, c'est pas grave. Je rebondis, je rigole sur ça et je poursuis. Et depuis ça, j'ai plus ce malaise avec le bide. Genre, je me prends des bides, je fais, oula, c'est pas passé, mais ça devient plus un drame.
C'est plus un coup de poing.
Ça, au moins, tu sais que ça marche pas.
Ouais, tu te dis, c'est passé, mais je sais pas, genre, moi, je sors de scène, je fais, j'arrête. Genre, comme ça faisait un rejet avant,
j'arrête, tu fais quoi? J'arrête aussi, ouais.
Maintenant, ça prend un couteau, tu fais, aïe, je mets un pansement. Genre, truc, ça fait moins mal. Avant, c'était un drame.
C'est vrai, tu vois le coup de couteau comme quelque chose qui est avec un pansement.
Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, maintenant, je le prends en mode, ça fait partie, comme tu dis, ça fait partie du game et c'est pas un drame.
Mais d'ailleurs, ça fait partie de la vie, en fait. Enfin, c'est con comme phrase, mais genre, si on échoue en permanence, la vie, c'est une section d'échecs.
Ouais, j'avoue.
On se trompe tout le temps, on fait des conneries, on apprend de ça. Et le stand-up, c'est un prolongement de ça, je trouve.
Ouais.
Ouf. Il m'est arrivé un truc dans ton club la semaine dernière. T'étais pas là. J'aimerais vous le raconter.
Très bien.
Parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, une interaction comme ça.
Ah oui, on m'a dit.
Ah, on t'a dit?
Oui,
il y a eu un on dit. Il s'est passé quelque chose.
Dinguerie.
Je monte sur scène. Et en fait, ça fait son micro ouvert, c'est-à-dire ces sessions, il y a plein d'humoristes qui se succèdent. Et il y a un gars au premier rang qui parle avec sa meuf, qui sort son téléphone, qui parle avec sa meuf, il rigole, il explique à sa meuf, il fait des trucs. Et il y a plusieurs humoristes. Il y a un gars que j'ai rencontré qui est formidable, qui s'appelle...
Julien Sommet.
Ils enchaînent, je vois les gens s'enchaîner et tout. Et je vois le gars au premier rang et un peu insistant, un peu relou et tout. Et voilà, il s'appelle Julien, tu m'as dit.
Ouais.
Et donc, t'as Julien qui le vanne, qui fait Francis Lalanne. Les gens, ils éclatent dehors parce qu'il a une queue de cheval et tout, ils tapent des barres et tout. Arrête un peu, ça se trouve, tu te rends pas compte, là, t'es en train de me ruiner ma vie. Ah, c'est marrant, t'expliques à ta meuf. Et moi, c'est mon seul moment. Moi, je peux pas payer mon loyer, moi. Moi, je suis là, j'ai ma seule minute de vie de la semaine. Et là, tu me la tues et tout. Et donc, tout le monde rigole et comprend, et le mec va se calmer et tout. Le mec continue de parler pendant les passages des autres, c'est relou. Et moi, je monte sur scène. J'enlève mon masque, les gens sont là, ouais, ils sont contents de me voir et tout, trop cool. Moi, j'ai des trucs à tester dans ma tête. Je suis là, ok, faut que je bosse pour ma minute dans 60, faut que je travaille mon truc, j'arrive. Je monte sur scène et le gars, il est sur son téléphone et il commence à encore texter. Je fais, mec, range ça dans ton cul. Range-le dans ton cul. C'est rigolo, c'est pas méchant, oui, tu vois. Et les gens, ils rigolent, ils tapent des barres. Il s'arrête, il fait, excuse-moi, mais entre ta blague et la maladie de ma mère.
Oh.
Ah, ça, c'est les moments. Ça, c'est les moments que j'aime.
Quel enfoiré.
Et là, je me dis. C'est pas sympa. C'est pas sympa de me m'enlever. D'ailleurs, je suis pas responsable. Tu vois, c'est pas moi qui m'a rendu ça ma mère malade.
Après, Si, c'est la meuf à qui t'avais donné le sida. Ah.
Pour le coup, c'était de la Javel à microdose pendant 20 ans.
C'est ta faute.
C'est vrai. Donc c'était un peu toi. T'imagines, en fait, c'était vraiment venu pour ça.
C'est un peu toi pendant 20 ans.
J'espère qu'il va m'en parler. Il fait, bah excuse-moi, entre ma mère à qui tu as donné une maladie et ton passage. Le bordel.
Là, la salle fait... Il n'y a plus un rire possible derrière. Tu peux pas faire, ah bon ? Ok. L'autre jour, j'étais à poil chez moi. Et vous avez remarqué, quand on est à poil, on se dit souvent, il y a quelqu'un qui nous observe. Non, tu peux pas faire ça.
T'as vu la scène de Afterlife ou pas avec Ricky Gervais ?
Non, j'ai pas vu.
Ah, ok. Il y a un truc comme ça où il a perdu sa femme, sale pitch de la série.
Ouais.
Et il va voir un stand-up. Il nique le passage du gars en disant, ma femme est morte. Et le mec, il peut rien faire derrière.
Et là, je me dis, bon, bah. Il y a une situation, il faut en parler.
Ouais,
je ne peux pas faire semblant, je peux pas faire OK, sketch, blablabla, blablabla, blablabla. C'est un moment de vérité.
Tout le public, eux, ils sont là, sa mère est malade. Ils ont ça dans la tête.
Je lui dis, mais est-ce que tu veux prendre le temps d'aller l'appeler ? Parce que là, visiblement, il y a un problème. Tu peux sortir et va l'appeler. Non, non, c'est bon. Je fais, non, mais prends le temps. Non, non, c'est bon, vas-y, continue.
Ah, c'est horrible quand ils font
ça. Je fais, moi, je te demande de m'occuper de toi. Je veux que tu t'occupes de toi et de ta maman, donc vas-y. Et en fait, non, c'est bon, c'est réglé.
Elle est plus malade.
Ok, d'accord. Et après, je me dis, bah, je ne peux pas partir sur des blagues. Je vais lui dire, dans ma tête, ça a fait, bah, je vais lui parler de la maladie de mon père. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te parle de la maladie, je te parle de l'importance de ça. Et je m'en suis sorti en disant, bah, voilà, je lui parle de ce que je ressens quand, avec la maladie de mon père. Et c'était un moment où pendant 2-3 minutes, on a extirpé l'angoisse du moment en disant, on partage quelque chose. Et que c'était important pour moi comme étape, même si on ne pouvait rien faire avec la maladie.
Tu lui as dit qu'il était mort, du coup, ton père ?
Ouais, bien sûr.
c'est cool. Ma mère est malade. Mon père aussi était malade.
Non,
il est mort.
Bah, c'était ça, en fait.
Ça.
Un jour, j'étais dans un comedy club et il est mort pendant que je riais. J'étais en train de rire aux éclats devant l'humoriste et il est mort pile à ce moment-là. Voilà ce qui est arrivé. Peut-être qu'il va arriver la même chose à ta mère.
Cours.
Et je dis, bah, mec, et on parle de ça, on dédramatise et tu sens que lui, après, il est cool. Tu sens que c'est cool. Et après, on a pu faire des blagues et repartir et tout. Donc il y a eu ce moment de.
Moment de vie, quoi.
Il faut gérer. Ouais, et c'était totalement inédit, quoi. Et j'ai terminé avec une grosse blague sur la mort de mon père, qui était une blague inédite, pour le coup. Et ça a continué. Puis après, on a pu avancer. Mais c'était. Et c'est des moments.
Comme ça,
fous.
C'est tellement. On est proche des gens, quoi.
Mais j'étais accroupi en face de lui, comme ça, en train de lui parler dans les yeux.
Ouais.
Elle essayait de le capter, tu vois, parce qu'il y avait un malaise de malade.
Et mais c'est fou que ça ait été ça, ton réflexe.
De quoi ?
C'est sûr, mon réflexe aurait été de trouver une vanne. Toi, ton réflexe a été de discuter avec lui et tout. Moi, j'aurais trouvé.
Moi, j'aurais fait ça aussi,
sale.
J'aurais discuté.
C'est pour ça que vous, les gens, vous aiment bien et vous êtes connus. Enfin, c'est sûr.
On parle
t'aurais
avec
dit quoi, toi, si le mec, il dit.
Je sais pas. Tu sais, faut être dans l'adrénaline.
Je te le fais. Ouais,
C'est dur de vraiment se remettre dans les conditions. Parce que pour moi, le côté créatif, il vient vraiment comme du danger. Là, tu ne me mets pas réellement en danger. Tu peux essayer. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est le moment où tu as vraiment.
Il y a tout le monde qui te regarde, genre, fais quoi
blanc,
maintenant.
Tout le monde qui te regarde en disant. C'est toi le maître de.
J'ai fait une blague pour dramatiser. J'ai dit, mais ça va, mec, et tout. Ne vous inquiétez pas, hein, je suis un professionnel de l'humour. Après, ça va déchirer. Mais là, on parle de ça. Et les gens font, ils ont tapé des barres, tu vois.
Il a dit quoi ? Il a dit.
Entre ta blague et la maladie de ma mère.
Je pense que. Ouais, ok. Là, ça m'a mis la pression. Elle est venue et après, j'ai fait. Oula. Je pense que sur scène, je l'aurais dit. Là, en fait, je suis en train de me la censurer. Je pense que pour les deux, il faut attendre la chute. On va voir. Tu sais pas, je pense que j'aurais dit ça. J'aurais dit dans mon cas et dans son cas, faut attendre la chute pour savoir.
C'est drôle.
Et pour moi, c'est la façon de. Mais je pense que ça peut marcher parce que mon style, c'est ça.
Oui, voilà.
Et ton style, si toi tu fais ça, les gens vont dire ah ben non.
Oh. Ouais, ça serait agressif de ta part.
Ouais, ouais. Et si moi je fais, ben on va en parler, je pense que les gens rigolent en se disant il est en train de se foutre de sa gueule.
Ouais, de ouf.
Non, mais c'était un bon moment parce qu'à la fin, il a dit que voilà, ça l'avait aidé, qu'au contraire, c'était cool et que c'était bien. Puis après, je vais le voir.
Il a crié pendant le passage d'un autre gars d'ailleurs. C'est le mec est juste relou. Pendant le passage d'un gars, il a fait. En tout cas, ça m'a bien aidé. Mais tu peux arrêter de niquer le passage de tout le monde.
Ouais, mais ça, entre la dit ma mère, je te dis.
Je préférais Kian, lui, il m'écoutait.
Tu peux pas, et c'est Kairon aussi qui dit ça, tu peux pas faire abstraction d'un truc qui se passe dans la salle.
Tu peux pas de ouf.
Ça, avant, en automatique, je fais je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Et tu traces. Mais en vrai, les gens, ils font mais il est vivant, il est avec nous, il est pas.
Mais ça, dans les débuts, je trouve c'est important de le faire. Dans mes premières expériences.
Tu peux pas le faire de toute façon.
Ouais, de toute façon, tu sais que tu vas être moins bon. Et surtout, ça te. Tu sais, c'est comme les exercices de scénique où on te dit vas-y, maintenant fais ton texte, mais tout le monde te fait yesh. Tu sais, dans les trucs de théâtre et tout. Et pour moi, c'est quand même important quand tu débutes d'être dans les pires salles et de réussir à tracer, de pas perdre ton énergie, de pas parler plus vite, de pas paniquer pour pouvoir, tu vois, parce que parfois c'est des choses que les gens détectent pas. Parfois t'es en télé et tu peux pas t'arrêter comme en comédie club parce que ce dont tu parles, il y a personne.
Et des fois même dans la salle, personne n'a calculé ce que t'as calculé.
C'est-à-dire c'est le truc un peu traître. Parfois il se passe un truc et ton cerveau faut qu'il analyse si le reste de la salle l'a vu ou pas. Parce que si personne l'a vu et que tu pars dessus, tu perds tout le monde qui était encore là, en fait.
Et des fois, c'est ça le piège. Moi, c'est avec l'expérience, au bout, tu te rends compte, tu fais « Ah non, enfin, ce qui vient de se passer entre ces deux personnes-là, personne ne l'a vu. Donc, il ne faut pas que je rebondisse dessus. » Parce qu'il fait « Pourquoi ils se coupent pour ça ?» Et ça, c'est avec l'expérience. Et je pense aussi, il y a le moment où tu arrêtes d'être en automatique. Moi, c'est quand j'ai commencé à prendre la confiance sur scène, à me dire « J'ai pas envie de me faire emmerder chez moi, dans ma chambre. » Et du coup, dès qu'il se passait vraiment un truc, je faisais « En fait, non, je vais rebondir. J'ai envie d'aller rebondir sur le truc. »
Une fois que tu penses comme ça, de toute façon, ils le sentent. Après, tu deviens légitime. Quand tu le fais parce que tu dis qu'il faut le faire, t'as une chance sur deux que ça tombe.
Je me rappelle, au bout, là...
Mais quand tu le fais en mode « Pourquoi tu fais ça comme si t'étais chez toi ?» Le mec, il enregistre la personne. C'est souvent un mec. La personne enregistre « Putain, en fait, c'est vrai, on est chez lui. »
C'est
le sang dans ton...
Ouais, comme tu dis, faut pas, en fait, la première pensée que t'as, il faut la dire, quoi. J'ai compris ça en impro vite, mais il faut pas réfléchir et analyser ton impro. Genre, tu penses un truc, dis-le tout de suite. Sinon, on va sentir le truc de t'as réfléchi. Et au début, je réfléchissais. C'est trop marrant, les premières impros. Je sais pas si vous vous rappelez, quand vous testez vos premières impros, moi, je vais parler à quelqu'un. Et en fait,
dur,
je lui parle mal. Dans ta tête, c'est un truc de ouf, tu fais une vanne. Et les gens, ils font, oh, c'est pas gentil, ça. Et genre, les gars, je vais aller le voir à la fin du spectacle au bout. Je fais, vous avez aimé? Il fait, mais tu m'as insulté tout le spectacle. Je dis, oh, non, rigolez. Mais non, tu m'as dit, connard, que j'étais un. Tu vois, j'étais, ah, mais merde, pour moi, c'était des blagues. Et en fait, j'oubliais le sourire ou la phrase qui fait comprendre ça. C'était intéressant, ces premières impros là. Où je me rappelle, quand tu te rappelles, on a beaucoup raconté ce truc, mais quand on était en école de commerce,
j'ai les images, il y avait des gens qui dansaient pendant ton passage derrière.
Des gens qui faisaient du
rock'n'roll. Ta 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 ta. Bonjour, c'est Shirley.
Ta gueule. J'ai vraiment entendu ça, pas marrant. Et j'avais pas encore commencé.
Avec le câble, qui était le câble d'un mètre.
Le câble qui était trop court.
Et tu jouais comme ça.
Et t'as vraiment qu'un réflexe, on te parle mal. Et tu dis rien. Dans ta tête, tu meurs, quoi. Ça a duré 3 minutes.
C'est nul. Ah bah merci.
3 minutes, ça a dû durer. Vraiment, ça s'est arrêté quand tu m'as regardé. Pour m'encourager. Ça va aller, j'étais dans ça. Pas aller, en fait. Ah, c'était dur.
Ouais, on a fait des trucs. Hein.
Ah, c'était vous.
T'as des anecdotes comme ça à tes débuts? Tu veux me dire non?
Ah non, oui, non, parce que je cherchais, parce que mon cerveau, souvent, il dit non,
oublie ça.
Oublie. Non, c'était
un spectacle. Je dirais, ah bon, qu'est-ce qui se passe?
Non, c'était, c'était un sort de festival, enfin, dans la rue où il y a toutes les.
Ça commence mal dans la rue.
Ouais, genre, c'est un truc.
Très mauvaise idée de jouer dans la rue. Le plein air et l'humour, ça marche pas.
C'était ça, c'était vraiment la foire aux saucisses. Et du coup, les gens, ils passent, ils s'arrêtent, ils font. Hop, il partait, j'avais un genre.
C'était là dans le sud, un truc comme ça.
Non, c'était à Paris.
À Paris,
c'était à Paris, je me rappelle plus.
Avec les boules de pétanque, là, il y avait pas des gens qui jouaient à la pétanque?
Je sais plus, c'était des gens, ils se promenaient.
C'est
pour moi, c'était vraiment la foire aux saucisses. Je joue, tu vois, il y a des gens qui se déplacent pendant. Le public change pendant que tu joues. C'est vraiment ça.
Mais genre, j'ai pas aller au bout de ton idée.
Ouais, c'était ça.
Expliquons, c'est fragile une blague. Tu commences un truc, s'il y a un problème de son ou d'articulation, ta blague, elle tombe à l'eau, personne rigolera.
C'est ça. Et ouais, genre, je joue sur scène, je sais pas ce qui m'arrive. Après, tu devais flyer. Je fly, le mec, il réceptionne mon flyer, il regarde, il me le redonne, il fait « Bon courage
». Il a quand même bien observé.
Cette journée magnifique. Oh là genre, là. Comment te faire redescendre sur terre, mais bien comme il faut.
Moi, j'ai eu ça en première partie, quand j'ai vraiment commencé à monter sur scène. C'était courageux. Ça veut dire que c'était pas drôle, tellement pas drôle que la personne n'a même pas réussi à extraire quoi que ce soit. Il a voulu me dire quelque chose, c'était un gars, il a voulu me dire quelque chose, mais il a trouvé que le courage. Que lui, tout ce qu'il a vécu en me voyant, c'était waouh, je pourrais pas le faire, moi, je pourrais pas rester aussi longtemps devant des gens, des gens qui rient pas sans m'effondrer. Quel courage! Donc, il a salué mon courage.
Je sors de scène après un bide en 2012-2013 et il y a un mec qui va me faire, il me fait, c'était vachement bien, bref. C'est dommage, je t'ai arrêté.
Ça, c'est vraiment l'équivalent de tu présentes ta meuf et ta mère elle parle de ton ex, quoi. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Elle était super, Nathalie.
C'est drôle.
Il y a une école au Barbès?
Non, c'est pas une école, c'est
une
résidence.
Ça, on aurait adoré avoir ça quand on aurait commencé. On aurait
adoré. Non, pas l'école, parce que moi, j'aime pas les écoles dans l'idée de rendez-vous à 8h.
Il y a un enseignement.
Un enseignement, un partage d'expérience, je dirais.
C'est plus honnête parce que.
Ouais, parce que.
Il y avait une école à l'ancienne, mais pour moi, c'était malhonnête de ouf. En fait, pour moi, ça n'existe pas de. Déjà,
donc, tu as déjà connu une école.
Pour moi, c'était en mode déjà, un prof, il ne peut pas être, avoir un feeling avec 15 élèves ou. Genre, c'est impossible qu'un seul mec ait un feeling avec tout le monde ou.
Tu parles surtout en termes d'humour, tu veux dire?
Ouais, genre. Oui, parce que des fois, tu avais le prof qui disait ouais, c'est pas drôle. Ah, toi, tu trouves pas drôle, mais ça veut pas dire.
Voilà, moi, c'est ça. Par exemple, au campus, je fais hyper gaffe.
Moi, j'ai l'impression qu'il l'a fait, cette école, et que ça s'est. Il a eu des mauvaises notes.
Ah, t'as fait une école de l'humour.
Ah oui, genre.
Il a eu des mauvaises notes, apparemment.
Non.
C'est pas possible. Alors, c'est que ton avis.
Tu recules, genre, en plus, comme ça parlait pas des scènes ouvertes, c'est pour ça que je suis arrivé tardivement sur les scènes ouvertes, il parlait pas de ça. Et moi, j'ai beaucoup plus appris à aller en. Dans les plateaux où t'avais les mecs qui viennent te donner des conseils.
C'est un métier qui se fait s'apprend en se faisant.
Ouais, pour moi, ça se pratique. Ça n'existe pas de s'asseoir et de dire alors il faut faire comme ça, écouter.
Ouais, ça, moi, je veux pas créer des monstres. Donc, du coup, déjà, je prends des entretiens avec les gens qui veulent faire le campus. Là, il y a une deuxième édition qui commence le 2 novembre et ça y est, c'est bouclé.
C'est complet, il y a du monde et tout.
Ouais, c'est trop ouf.
Alors, comment s'inscrire pour la prochaine? Parce que comme ça, les gens
vont savoir. Tu peux aller sur le site de Barbès Comedy Club, t'as un onglet campus et puis un documentation, formulaire. Et donc, tous les ans, on va faire 4 mois comme ça de résidence.
4 mois et c'est payant.
1500 euros pour 4 mois.
1500 euros pour 4 mois.
On est sur 500 euros par mois. Même pas. Et du coup.
Qu'est-ce qu'il y a dans ces cours?
Et ouais, il y a plein de trucs. Alors déjà, il y a l'écriture.
Déjà, il n'y a pas de cours de maths apparemment.
Déjà, il n'y a pas de cours de maths.
Tu as dit 1500 euros pour 4 mois, ça fait 500 euros par mois.
Non, j'ai dit un peu moins même. Parce que je me suis rendu compte, j'avais la flemme de dire du bon un peu moins. Pas de cours de maths. C'est sûr, c'est pas moi. Là, tout ce qui est compta, faut oublier. Mais pour le coup, on fait l'écriture, le partage d'expérience en écriture. C'est moi, en fait, je me suis rendu compte que j'en ai beaucoup d'humoristes de ma génération à avoir Comedy Bible et tout. On l'a pas vraiment lu, tu vois. On est là, ouais, je l'ai dans ma bibliothèque, ouais. Et un jour, je l'ai ouvert et j'étais, ah, c'est marrant, il y a des trucs. Il y a des vannes que j'aurais pu réparer depuis des années si j'avais les techniques. Pas forcément de l'apprendre au départ, mais de connaître ça comme la mécanique d'une voiture.
Ouais, bien sûr.
Quand ça fume, t'es pas en mode, mais qu'est-ce que c'est? Au moins, tu connais un peu la méca. Et donc là, c'est un peu dire, OK, voilà la méca d'une blague, mais on passe pas 15 ans sur cette théorie, tu vois, parler du setup, dans un setup, il y a une prémisse, une attitude.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer un peu, parce que les gens, ils nous regardent, ils peuvent comprendre.
Bah non, c'est 1500 euros, on va pas tout cracher là.
C'est gratuit. Ouais,
vendre une méthode. Ouais, je vous vendre une méthode
dans Comedy Bible. Mais non, mais ça, c'est un truc que
vous pouvez aussi vendre cette méthode à 10 personnes derrière.
C'est un truc que tu peux lire en livre, c'est pas un truc payant. L'important, c'est plutôt ce qui est payant en vérité, c'est le partage d'expérience, le temps qu'on va passer avec eux. Vraiment, moi, je passe vraiment beaucoup de temps avec eux.
Parce que c'est
eux,
fame, c'est texte. Fame de l'humour.
Non.
Bah si, parce qu'il y a des cours de, il y a des cours de.
Non,
de,
alors tout ça pour moi.
J'ai vu des gens arriver en
c'est
collant.
C'est le stress.
De la vanne.
C'est le undo stress de l'humour.
Non, il y a de l'acting, parce que j'ai constaté une chose, c'est que c'est quand même cool de connaître son corps un minimum.
Évidemment.
De connaître l'espace, tu vois, les autres et que soit.
Ils vont dans l'espace.
Ils vont dans l'espace, ouais. Un mois.
Non, c'est à 1500
euros. Ça, ça coûte 500.
Il y a une fusée et tout.
Pour le coup, c'est rien du tout.
Connaître l'espace, moi, je suis prêt à payer.
Même en kérosène, c'est pas rentable.
Tu te fais avoir.
Non, mais c'est un projet.
Après, ils sont 3000.
Humanitaire plus qu'autre chose, quoi.
Ils sont 3 millions.
Ah, ok.
Ouais. C'est ça. Non, donc l'idée, c'est ça. Ils ont des cours d'écriture. Ça, c'est vraiment des cours techniques. Et après, c'est pas des cours, c'est des sessions d'écriture ensemble, en groupe.
C'est bien ça.
Où on se booste ensemble. C'est parce que moi, j'apprends aussi, en fait, hein, tous les jours. Hein.
Évidemment.
C'est des groupes de combien?
C'est des groupes de là.
Et du coup, toi, tu payes 10. Aussi ou...
Non, moi, je récupère.
Si je peux me permettre, Charlie, en plus, t'es pas à l'abri de tomber sur un mec qui va bouleverser des codes.
Oui,
parce qu'il y a rien de mieux qu'un débutant, comme tu dis, créer un monstre. Ouais, un gars qui va dire, mais moi, l'humour, je le vois comme ça. Et tu te dis, mais c'est comme si t'allais dire à un mec comme Monsieur Fraise, non, faut pas écrire comme ça, il faut que ce soit efficace. Bah, tu détruis le gars.
Moi, c'est le premier truc que je dis aux humoristes qui viennent au campus. Et les gars, par contre, sachez que moi, je serais pas là pour vous dire ça, c'est marrant, ça, c'est pas marrant. Si vous faites un truc raciste, avec grand plaisir, mais il faut que ça soit marrant. Donc, je vous pousserai à aller plus loin dans votre idée. Je vous dirai pas, non, n'y va pas. Parce que je pense qu'un sujet, c'est un bon sujet. Tu vois, moi, il y a des trucs racistes, homophobes que peuvent dire Dave Chappelle qui me font mourir de rire parce qu'il part du postulat de départ que clairement, il est conscient que c'est une connerie ce qu'il va dire.
Bien sûr.
Ouais, donc, c'est cool quand t'es conscient. C'est quand il y a des gens. Ouais, Bill Burr me fait peur des fois. Je suis là, dis-le que tu rigoles. Tu vois, je suis pas à l'aise des fois.
Ouais, c'est Gervais aussi.
Ouais, il y a des trucs, je suis moins à l'aise, quoi. Mais bon. C'est un ressenti. Et pour l'école, donc pour revenir là-dessus, sur ce qu'ils ont, c'est. Enfin, l'école, justement, faut pas que dire école, parce que c'est pas une école.
Mais c'est quoi
les gens, après, ils me parlent comme une directrice et
une
tout.
Secte,
ils sont là.
Une secte.
C'est non,
un club.
Un club.
Pourtant, il y a
un
campus, frère.
C'est un campus.
Un campus, tu
ouais,
vois.
Un campus.
Une formation.
Formation résidente. Tu vois, c'est un peu ça. Et donc, pendant ces 4 mois.
Inventer
campus,
un mot.
Frère.
Mais non, mais campus, moi, j'imagine un campus universitaire. Avec les alpha, bêta, gamma.
Mais non, parce qu'il y a des gobelets rouges avec des gars qui
ont. Union. Le campus, les summer camp de basket, t'en as. Enfin, un campus, une formation
un camp,
pendant
un
camp, si tu veux. Un camp. Au camp des blagues. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment des sessions d'écriture, une dynamique ensemble tout le temps. Bah, tu sais, tu l'as fait cette année en première édition.
Ok, il a bloqué d'échanger sur camp, avec quel camp, je pensais.
C'est très bien qu'il pense pas à un camp avec des scouts.
J'ai bien compris. J'ai bien compris aussi. J'enchaîne.
Je vais travailler sur la concentration dans ce camp.
On essaie vraiment de la dilatation.
Alors, l'humour, qu'est-ce qu'il y a dans ce campus?
Eh bien, des juifs. Tout à l'heure, je suis là, arrête de m'envoyer. Arrête.
C'est horrible.
Ça m'a fait beaucoup rire. Attends, j'ai eu chaud en même temps. Bon, et du coup, dans ce campus, il y a du sport, de l'écriture, de l'acting, de l'anthropologie et
un
du journalisme.
À la scène aussi, un accès à la scène.
Un accès à la scène, évidemment, au micro ouvert.
Refais-les en détail.
Anthropologie.
Parce que anthropologie, ça veut dire qu'il y a
c'est
quelqu'un.
Ça veut dire qu'il y a une anthropologue qui s'appelle Marie Serre, qui est venue voir mon spectacle, en fait, et qui est fascinée par les humoristes parce qu'elle a constaté qu'il y a deux types d'humoristes. Il y a des humoristes qui confortent les clichés et ceux qui essaient de les casser. Et que pour une anthropologue, c'est hyper intéressant à regarder. Donc elle est venue voir mon spectacle, Monsieur Charlet, pour voir si je cassais ou je confortais avec ça. On discute beaucoup, tu vois. Elle a regardé Farid, elle a voulu lui parler d'esclavage pour qu'il aille plus loin. Elle est hyper intéressante dans son idée. Et donc elle aime les stand-uppers, elle voulait bosser avec des stand-uppers, je vais venir au campus. Et son idée, en fait, c'est qu'elle explique en fait, on a plein de points en commun avec les anthropologues. Ils observent les humains et leur évolution, ils analysent les humains et leur comportement, sauf qu'ils sont pas marrants, ils font pas des vannes à la fin avec ça. Après, ils font juste des analyses et donc il y a pas mal d'exercices.
Ils sont pas chiés,
ils
font que les prémices.
Ouais, c'est ça. Donc ils ont les mêmes exercices que nous, genre d'observer, de prendre des notes, elle nous donne des exercices à faire, etc. Elle nous explique des choses qu'on est censé savoir en tant qu'humoriste. Ce que je dis au campus, c'est les gars, ce qui différencie un humoriste.
Ah, semaine B. La semaine B, c'est Alain Soral qui fait exactement la même chose. Ça crée deux styles d'humoriste complètement différents.
C'est comme ça, les gens, voilà.
Elle nous apprend des trucs sur le
panel,
monde. C'est génial.
Pas une façon de penser unique. On ne veut pas une pensée de façon unique. On veut vraiment que les gens soient libres. Donc, ces cours d'anthropologie sont hyper intéressants parce que, en fait, je me dis, ce qui différencie un humoriste d'un mec dans un bistrot, c'est la connaissance quand même un minimum, tu vois, et la prise de conscience de ta vanne, c'est pas le tu vois. Donc du coup, c'est aussi l'analyse de ce que tu racontes, même si c'est pas hyper
aussi,
profond.
Et l'alcool,
si tu... énormément.
Ouais, je crois que
l'alcool
a une autre formation
énormément. Mais du coup, c'est cours d'anthropologie.
Quand t'es humoriste, tu bois avant et après. Alors qu'au bistrot, tu bois pendant que tu parles. C'est vraiment.
Moi, je bois pendant. Hein, quand je
ouais, c'est vrai.
Le whisky pendant. Mais ces cours d'anthropo, ils sont hyper cool parce que je me rends compte que beaucoup d'humoristes viennent, font des blagues sur des sujets qu'ils maîtrisent pas, qui sont historiquement hyper importants, notamment le racisme. J'ai halluciné cette année sur les gens qui découvraient d'où venait le racisme. Qu'il y avait des zoos humains en France en 1920. J'étais là, non. J'ai vu des gens saigner du nez, tu vois, vraiment faire. Mais c'est... Ah, ok, d'accord. Ah, mais tout s'explique. Ah, mais le. Tu vois. Donc, c'est hyper important. Le genre, notamment. Le genre, c'est aussi une notion qu'on étudie avec Marie, l'évolution du genre, de comment le féminisme. Tu vois, il y a une fille qui s'appelle. Ah, j'ai oublié son nom. Françoise L'Héritier, qui avait une théorie comme ça qui est hyper intéressante sur le féminisme en partant du postulat que le patriarcat était choisi par les hommes et les femmes. C'est un contrat moral qu'on a pris ensemble à une époque et que du coup, dans les combats féministes, elle disait, Françoise L'Héritier, il faut continuer ce truc d'être ensemble, tu vois. Puisque là de sa théorie à elle, c'est qu'on a choisi ensemble ce truc-là. Et donc, c'est hyper intéressant d'aller chercher les analyses humaines de comment on a évolué, pourquoi on fait ça, pourquoi, quand justement, t'es juif ou musulman ou chrétien, tu penses différemment. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec eux parce que je passe mon temps à me déprogrammer, personnellement. Vu que je suis une femme noire, lesbienne, tu vois.
Quoi?
Ouais,
c'est noir.
Je l'apprends tous les jours. Je suis noire, j'ai oublié ce problème. Mais ce truc-là, tu vois, j'ai compris quand je suis arrivé dans le monde, j'étais là, ah ok, il faut vraiment, on a vraiment un maillot d'une équipe, ce qu'on dégage, est-ce qu'on représente.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vrai, ça, le fait de.
C'est,
ouais.
Ouf, c'est trop bien de prendre conscience de qui tu es et ce que tu représentes dans la société. Et pour un traîneur humoriste, c'est la base. Après, il y a le journalisme, où là, c'est Grégory Plouvier, du Parisien.
Du Parisien.
Ouais, qui, en fait, c'est un journaliste qui avait fait quand même ouvrir la case humour. Dans le Parisien, ça n'existait pas. Il y avait théâtre et des rendez-vous avec ça. Donc, il a vraiment séparé. Donc, il a cet amour aussi de l'humour qui me paraissait important. Parce que je ne vais pas prendre des gens pour prendre des gens. Il faut vraiment que les gens soient dans une bienveillance avec l'humour et les humoristes. Dans un amour de notre métier, quoi. Et en fait, il y a tellement de points communs entre l'écriture de journalisme et de stand-up. Parce qu'il faut prendre un angle, il faut choisir un angle quand tu es journaliste et le défendre jusqu'au bout, tirer l'idée, le fil de ton idée et pas lâcher ça. Souvent,
ouais, mais après, il n'y a jamais d'article de journaliste sur les articles de journaliste.
Non, c'est vrai.
Sur des critiques de
spectacles.
J'ai jamais vu un journaliste
qui faisait
un
journal en disant
comment il a aimé ma critique.
Ah, c'est marrant. On pourrait faire ça.
J'avoue.
Et en tout cas, ce truc de décrire, de trouver un angle et d'aller chercher l'information où il faut, parce que souvent, tu sais, des humoristes se disent, des fois, si on fait pas gaffe, on est des mecs de bistrot. Hein. On voit un titre de journal et on a l'impression de connaître le sujet et on va en parler sur scène en pensant qu'on sait tout. T'es là, oh les gars, faites gaffe.
En fait,
c'est une responsabilité quand même.
Tu offres une forme de recul, donc une forme d'intelligence.
Ouais, si tu veux qu'on parle d'école, c'est une école, mais qu'on aurait tous eu envie d'avoir. C'est une école qu'on choisit.
Penser, une école, d'apprendre à penser par soi-même et de pas foncer dans un cliché. Sans en connaître les. Sans s'intéresser en tout cas aux alentours des clichés.
Tu peux pas parler à des humains, prendre un micro pendant des années dans ta vie, sans connaître un petit peu l'humain et la
réalité. C'est un pouvoir très fort l'humour quand même. On peut faire passer des idées, accepter des idées genre sexistes et racistes par la validation du rire.
Totalement.
Et le rire, ça reste une forme de validation.
Moi, des fois, quand j'ai des retours comme ça avec des humoristes qui commencent, je leur dis tu te rends compte que c'est raciste que tu as fait. Souvent, c'est des noirs, hein, ou des arabes, enfin des non-blancs en tout cas, qui sont hyper racistes parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils s'aiment pas encore. Donc, pour plaire aux autres, ils vont faire des trucs qu'ils pensent. Que les blancs vont aimer.
Ils vont se saboter.
En majorité. Ouais, mais c'est parce qu'on est né dans ce monde-là. On est né dans un monde où apparemment c'est rigolo des fois comme ça. T'as vu? les Renois.
Ce qui vient de se passer est incroyable.
Nous on a Paris et
ce qui vient de se passer est incroyable, là, je crois.
La fin de la démonstration, bravo Charlotte.
À chaque fois je me le fais à moi-même, je fais ah, j'ai envie de rire.
Nous on était là.
Ouais. Bah, vous êtes éduqués, ça y est, vous savez.
On a Michel Leb depuis longtemps. Nous, on s'était identifié à lui quand on était petit. Donc,
et ouais, nous on a grandi avec ça. On se dit, bon, apparemment, c'est pour être aimé de la société, pour être une fille, tu sais, ça commence à changer dans l'humour. Les femmes commencent à comprendre qu'elles n'ont pas obligé d'être polies pour qu'elles soient acceptées, qu'elles peuvent être trash. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trash.
Mais je trouve qu'il y a une vraie phase de tracherie.
Ouais, c'est l'adolescence du stand-up. Quoi.
Exactement. Ouais. Mm-hmm. Et de le sens de limite, de tester les limites.
Mais moi, je fais que ça avec la weed. Je fume de la weed. Je sors de scène, je fais, on s'en fout. S'en fout que tu fumes de la weed, vraiment. Et genre, c'est une rébellion, quoi. Rebelle. Voilà. Mais si t'as rien à raconter sur la weed, passe. Ouais. Mais c'est l'adolescence en ce moment du stand-up. Et ce qui est normal, quoi. Donc, voilà, l'anthropologie journaliste va permettre de prendre ce recul-là. De savoir, quand tu prends ton micro, qui parle, où je suis dans ma vie, etc. Avant de balancer des choses, rire pour rire.
Moi,
les blagues pour les blagues, du sport. Parce que ça, c'est tous les deux semaines. L'idée, c'est vraiment plus d'être dans un groupe, en cohésion, et de kiffer ensemble, tu vois.
C'est l'école de la vie.
De sport, ouais.
Tout. On a fait du foot, du basket, je les ai niqués dans tout. Moi, c'est juste pour les niquer de ouf. Boxe. On a fait quoi? Ils ont fait même des cours de dancehall.
Ça, c'est cool. Genre,
mais c'est trop, parce que tu vois des gars qui étaient en mode croissance de ouf, tu les vois en train de bouger leur peau, ils kiffent de ouf et tout. Et il y a une dynamique d'amour où je suis content.
Tu fais un documentaire là-dessus ou pas?
Non, je voulais faire une série doc sur tout ce que je fais là. Parce qu'en fait, je me dis, c'est dommage, je fais plein de trucs différents.
Il y a une belle énergie en tout cas à filmer.
Ouais, de ouf. On va filmer.
Contactez Charlotte, s'il y a des gens motivés pour prendre en charge un projet.
Netflix m'a dit non déjà, donc quelqu'un d'autre, quoi.
Non, mais s'il y a des gens, il y a toujours des gens qui cherchent des projets à faire, qui ont envie de se rendre.
Alors, sachez que le Barbès Comedy Club, c'est genre open, on est très ouvert à chaque fois. Les gens, ils font, j'ai une idée. Vas-y,
justement, cette plateforme, elle existe. Donc, manifestez-vous, contactez le Barbès, contactez Shirley sur les réseaux sociaux.
Pas moi directement, mais.
Contactez les équipes du Barbès.
L'équipe du Barbès.
Il y a ce contact de l'équipe du Barbès qui est juste là. Contactez, parce que si vous êtes motivé, même des jeunes cinéastes, des jeunes gens qui veulent faire des documentaires, vous n'avez pas de thème, j'ai envie de dire des trucs, raconter des trucs. Il y a peut-être un truc à raconter là, donc foncez. Demander l'occasion, d'avoir l'occasion.
Totalement.
Et charmé, ça. Et donc, en plus, il y a dans ton école, moi, j'ai eu la chance de participer à une sorte de masterclass.
Ouais, c'est ça, ouais.
On m'a discuté pendant 5 heures sur Zoom.
Ils ont kiffé.
Et ben, c'était cool, tu vois.
Ils ont kiffé. Ils ont kiffé parce qu'en fait, pour nous, ça nous paraît, genre, Verinou l'a fait aussi, il disait, je sais pas si ça a apporté quelque chose, j'ai mis, tu rigoles, pour eux, c'est un truc de ouf. Ils commencent depuis 2 ans, 3 ans.
Moi, je me rappelle si à mes débuts, les gens que je kiffais, j'aurais pu avoir des conseils d'eux en direct. Kiffé.
C'est dingue, parce que moi, j'ai qu'une parole et qu'une expérience, et je trouve que c'est dommage que je dise, voilà, moi, je vois le stand-up comme ça, et il n'y a pas que moi. Genre, on n'a pas la même carrière et tout ça, donc c'est cool qu'ils aient une résonance et qu'ils voient les points communs qu'on a, et puis les différences aussi, tu vois. Et je trouve ça, moi, il y a plein de jeunes de la première édition, ils m'ont appris le stand-up là, cette année. Parce que les nouveaux, à chaque fois, ils arrivent avec encore plus de force que nous, quoi. C'est qui est normal, une fraîcheur et tout. Donc, j'apprends de ouf, là, il y a des mecs qui vont mettre des claques très vite, hein. C'est un truc de ouf.
Bah, j'ai toujours ce fantasme de penser que là, à l'heure où on parle, il y a un mec, là, il a, ou une meuf, hein, elle a 12 ans, et c'est la future star de l'humour. Dans 16 ans, elle nous met tous à l'amende.
Ouais. Mmh. Eh ben, on espère.
Et là, elle a 12 ans, elle est là, genre, pour la pitch. Tu vois, et dans 16 ans, vous vous rappelez quand on mangeait des pitchs, les potes?
Mais ouais. C'est, je suis content, non,
c'est
moi, juste de
merci sur la
chat, ça.
Merci. En fait, est-ce que le conseil qu'on peut donner, c'est, essayez, si ça vous plaît pas, barrez-vous.
Pour le campus?
Ouais.
Ouais, de toute façon, on fait un entretien, donc.
Non, mais de toute façon, tu vois ce que. Non, mais dans le sens.
Ah, dans l'idée de tester. Ah,
ouais, dans le temps, c'est tester, quoi.
Il y a deux trucs chez moi au Barbès, c'est qu'il y a le campus d'une part, si tu veux vraiment approfondir quelque chose, mais t'as aussi des sessions d'écriture.
Alors, ça, c'est génial. C'est entre 17h et 19h.
Ouais, tous les jours. De mardi à vendredi.
Du mardi au vendredi, ça c'est génial ça.
Gratos, tu viens et t'écris en groupe naturellement avec des gens.
Il y a Tanguy du Barbès qui est là.
Il y a Tanguy qui est là, qui dit si tu veux un coup de main, des punchs, si je peux aider, j'aide, tu vois. Et on s'entraide entre nous. Moi, quand j'essaie de gratter un projet aussi, je me mets assez là, comme ça on est ensemble. Et ça, c'est gratos. Donc, parce des fois, il y a des gens du campus.
Ça crée une émulation. Des gens se disent bah, je suis moins seul, je peux demander, je fais relire. Il y a un mec qui va me dire ouais. Et personne ne se juge.
C'est parce qu'encore une fois, à l'époque, on aurait voulu avoir ces moments-là.
De fou. Au moins, parce qu'on n'écrivait jamais. Nous, on était en mode dans ma tête. T'arrives le soir et t'y vas.
On l'avait un peu de temps en temps, mais dans des cafés.
Oui, c'est ça. Mais de façon ponctuelle aussi.
Ouais, et par hasard, quoi. De dire oh putain, t'es là aussi. Pranzo, à un moment, quand les gens étaient habitués au Pranzo et qu'ils connaissaient bien le lieu, les gens venaient l'après-midi, ça arrivait qu'il y ait 3-4 personnes, c'était en face du Jamel, mais c'était pas du tout l'assurance
de se poser. Groupe, aujourd'hui, un mec qui se pose pour écrire, c'est naturel. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé, genre des mecs qui vont poser dans des terrasses et tout, genre je voyais pas trop ça quoi.
Ouais, mais toi ils sont tout le temps en terrasse, ils attendent que ça ouvre à 17h et tout, et ils sont au taquet, ils écrivent. Tant mieux. Il y a tellement de monde aussi.
Je viendrai avec plaisir.
Ouais, viens, c'est trop bien. On kiffe. Hein. On se pose, on écrit.
C'est bon qu'on y aille.
Quand vous voulez, les gars.
Bah ouais, grave. Moi, quand vous voulez. Pour écrire à Barbès, c'est le quartier où
c'est l'idéal.
En général, j'adore aller à Barbès.
Il y a Montmartre. Tu me regarderas de là.
Le quartier a quelque chose ou pas ? Pardon, excuse-moi, tu veux dire.
Non,
c'est la
le quartier. Je
n'aime pas Barbès, point. Non, en plus. Non, j'aime bien Barbès.
On bat les couilles en plus.
Mais t'habitais pas loin.
J'habitais à côté. Le truc que j'aime pas à Barbès, c'est que c'est loin de chez moi.
C'est Barbès, quoi.
Je veux dire, si j'habitais encore à côté.
La longueur chez moi à Barbès, on a écrit Bref à Barbès.
Quand j'habitais à côté.
Ouais,
c'est vrai qu'on a écrit Bref à Barbès.
Ouais.
Bar Bref.
Oh, Bref.
Bar
Bref.
Bar Bref.
Bar Bref.
Bref.
Non, mais c'était pas. c'était cool. Petite chambre, la petite chambre. Petite chambre avec le canapé, là, qui clic-clac et qui fait mal au dos. Mmh. Ce clic-clac, j'avais tellement. Je me réveillais tous les matins parce que j'étais fatigué. T'as connu cette sensation ? Genre, oh, je suis trop fatigué.
Les ressorts qui te.
je souffre trop.
C'est vraiment les époques.
Je suis trop fatigué, je me lève. C'est bon. Allez, je commence ma journée, il est 6h.
On
va les
coucher. Debout, on est plus confortable.
Ça me fatigue encore plus.
C'est tellement. Ouais, enfin voilà quoi. En tout cas, on essaie de faire un truc de partage. Je sais pas quand je vais die, tu vois. Donc en attendant, tout ce que je fais, j'ai envie d'être contente et de me dire, ok, au moins, j'ai pas d'enfant. C'est ma façon de partager.
Un chien !
Ouais, c'est pas mon chien, c'est mon frère. C'est mon ref. Mais voilà, je suis contente de partager, tu vois. Je suis trop contente, je kiffe ça.
Je trouve que t'apportes vraiment un souffle positif.
Ouais, mashallah.
Sincèrement, vraiment.
Je suis en mission islamique, mashallah.
Public, allez au Barbès, allez assister à des jeunes pousses de créativité. C'est ça la créativité, c'est ça la création. Et vous allez beaucoup apprendre. Si vous ne faites pas d'humour ou vous n'êtes même pas auteur, quoi que ce soit, si vous voulez entreprendre, bah, voir des gens échouer dans leur entreprise, c'est toujours un peu réconfortant.
Je parle de web.
Non, mais tu m'as parlé des choses,
je sais, ça me fait rire. Des fois, c'est un peu dur quand même la boîte.
Allez voir Charles, vous allez voir quelqu'un s'effondrer. Vite avant que
ça ferme. Il m'est arrivé un truc d'ailleurs, bidé dans son comedy club, c'est le pire truc qui peut arriver à quelqu'un. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines.
Tu es chez toi-même.
Oh là là. Avec Serge Mathurin qui dit c'est la patronne du lieu.
Les gens qui te mettent trop haut. Oh c'est le meilleur humoriste de tous les temps. Allez, toi, j'ai une vanne sur la courgette. Putain, je sais même pas si elle est bonne.
C'est horrible. Et tellement c'était dur, le micro, il est tombé du pied quand je suis parti et il pendait comme ça. Et les gens ont regardé ça. Donc voilà.
Même le micro, il a fait.
Bidé dans son... ouais, il a demandé.
YouTube, il y a une suite sur YouTube,
ouais,
il y a un truc
revient,
et tout.
On revient parce que là, bah, saison 3 de Définition, j'ai fait une série stand-up.
Yes.
Et là, je vais essayer de m'y remettre très vite. En fait, c'est dur avec la boîte de tout le genre en ce moment, c'est la rentrée et tout. Je précise de m'y remettre là. Donc les mardis, ça sert à ça quand je joue au Comedy Club, m'entraîner à faire des nouvelles blagues toutes les semaines.
Le stand-up privé, ça s'appelle.
En octobre, voilà, en stand-up privé, c'est le plateau. Et en octobre, je reprends sur ma chaîne YouTube Définition, avec des nouveaux mots.
Des nouveaux mots.
Il y aura le mot gel et masque.
Et Jérémy, pareil, YouTube. Alors là, tu as une grosse reconversion sur YouTube depuis quasiment 5-6 ans, 8 ans, on va dire, depuis le Whoop.
Moi, c'était. Franchement, je ne pensais pas que j'allais finir sur le Whoop. Et ouais, comme
peut-être
le Whoop.
Même commencer sur le Whoop.
Ouais, comment je suis venu sur YouTube, ouais, c'est via le plateau du Whoop avec lequel on a commencé. Et puis après, ouais, avec les gars qui avaient déjà l'expérience comme Mister Vig tout seul, bah, on est arrivé on a fini sur le YouTube. Et puis, ça fait 1 an et demi là maintenant que je me suis lancé sur YouTube parce que ouais, pendant 4 ans. Ça fait pendant 4 ans, à chaque fois, tu dois valider ton idée par 6 autres personnes. Au bout d'un moment, c'est frustrant de fou. Et
on ne jette jamais vraiment une idée.
Ouais,
si elle n'est pas validée, on la garde pour soi.
C'est le placard, mais des fois, tu te dis... moi, il y a une anecdote où j'avais proposé un scénar et ça a été bâclé en 10 secondes. J'ai fait « Ok, je le mets dans un tiroir ». J'ai rebalancé cette idée, ça a été validé. Et le prod le prend, il croit à fond et tout. Il fait, mince, il y a quelqu'un qui a sorti un truc pareil, déjà signé, qui va sortir. J'ai fait, ça m'a trop fait mal. J'ai fait, j'ai plus envie de jeter mes idées. J'en ai marre d'attendre. Donc, j'ai décidé, je monte ma chaîne YouTube.
T'as créé ta propre structure ?
Ouais, j'ai monté ma structure pour produire mes trucs et tout. Et je suis content, je vais arriver sur un truc, enfin une série qui s'appelle Gus.
Ouais,
c'est
Gus.
Un univers que j'avais dans la tête que depuis longtemps. Et ce truc-là, on le tourne. Déjà, je ne sais même pas d'où je trouve l'énergie pour rassembler des comédiens. Je suis quelqu'un de très timide. Donc, pour dire, est-ce que tu veux venir jouer avec moi dans mon truc à moi
ou
dans mon truc, genre, mais je me suis dépassé dans tout ça. J'ai commencé à inviter des gens avec qui je voulais.
Dans l'inconscience,
jouer,
en fait.
Ouais. Et je suis parti dans ce truc. Genre, je produis, je trouve les trucs et tout. Et on finit le premier épisode. On le monte. Et avec mon réal, Haroun Saifi et tout. On regarde le truc, on fait mais c'est un ovni ce truc, ça va jamais marcher. Mais qu'est-ce que je suis fier de ce truc, j'adore l'univers.
Ça c'est une bonne sensation. Ouais,
On valide. Le jour de où je le publie, je suis en tournage à Tours, dans ma chambre d'hôtel, en train de répéter mon travail, mon texte. Je le balance. Pour une fois, genre zéro pression. Tu sais, quand tu balances une vidéo, j'avais la pression avant. J'avais mes courts-métrages, je balançais. Je fais, faut absolument que toi, tu cartonnes pour truc. Mais
tu parlais de tes vidéos.
Je balance. Ouais.
Écoute-moi bien.
Je vais te mettre de la crème.
Une grosse pression où t'es content de ton produit, mais j'avais une pression de faut que ça marche. Et là, je balance. Je fais, je sais que tu vas pas plaire. Mais je suis très heureux. Je te trouve très séduisant. Je te balance et je répète ma scène et tout. Au bout d'un moment, je rafraîchis le truc, je fais 100 000 vues en une heure. Ça m'est jamais arrivé. Je fais, ça bug. Je rafraîchis le truc, je fais 100 000 vues, j'appelle Haroun, je fais, hey, mais t'as vu ce qui se passe là avec le truc ? C'est en train de prendre, t'as vu les coms et tout. Et,
il dit, ouais, j'arrête pas de rafraîchir.
et ouais, il s'est passé un truc avec ça. Et c'est pour ça que maintenant, je suis un défenseur genre de ce truc, fais les trucs avec le cœur, parce que c'est le premier truc où j'ai fait sans pression, où j'étais fier de moi, et c'est le truc et c'est le truc qui m'a fait monter ma chaîne. J'ai eu des retours de fou, que ce soit pro ou public, et c'est ce qui fait que ma chaîne a pris son pas. On dit, c'est plus le mec du hoop, c'est il a sa chaîne. Et,
ah yes,
et je suis content de ça. Et c'est j'ai pu appeler des gens, il y a des gens que j'adore qui sont venus mais timidité, pudeur, ça va venir.
C'est une technique.
En vrai,
deux personnes que
j'ai
pas
toujours eu ce truc. Plus les gens que j'aime bien, et le truc, genre, j'ai toujours peur de dire bien jouer avec.
Il y a que les gens que t'aimes pas vraiment.
Ouais, c'est les gens. Comment s'en sortir de ça? Non, mais en vrai, de vrai, c'est genre la facilité, c'est avec les gens qui m'ont déjà appelé.
Du coup, genre, je vais vers eux. Si on part du dernier jusqu'au premier.
Non, mais là, je suis en train de guérir de ça. Je commence à
être. On va des gens que t'aimes le plus aux gens que t'aimes le moins.
Ça va être ça. Au fur et à mesure,
plus on remonte les vidéos, moins t'aimes les gens. Ok.
Prise chronologique, mais en vrai, de vrai,
Dans le premier, à qui, par exemple?
Ouais.
Si t'aimes le moins.
Le moins du moins. Mais vraiment, genre, c'est un truc où ça m'a. Comme ça, en plus, ça m'a donné confiance en moi. Du coup, j'ai pu, même dans l'écriture, aller vers un truc plus osé et tout. Et ouais, je suis très heureux de cette petite aventure qui m'apporte beaucoup.
Sur le voguing aussi, ça s'appelle comment?
Ah, les frères maléfiques.
Les frères maléfiques.
Non, ça, ouais, avec Jen Daddy et tout, c'est ouais, c'est deux frères qui pratiquent le voguing en cachette. Et ouais, c'est un de mes. D'ailleurs, Kian est dedans de ouf dans cette anecdote. Non, parce qu'il a. Genre, je fais ce truc et j'utilise une musique de DJ Midi. YouTube la repère et me fait, toi, je te supprime ton cours. J'ai mis toute ma vie dedans, c'est un truc, je vois, ça prend et je vois plus ton cours. Je fais quoi? Je vois en mode supprimé. Je fais non, j'ai mis de l'argent, j'ai tout investi. C'est à l'époque et tout, je gagne à peine des trucs et j'ai réinvesti tout dans YouTube. Donc en fait, si derrière, je peux pas utiliser mon truc pour attirer des budgets,
humains,
des humains, etc., je meurs. Et je pète un câble, je bade et tout, je peux pas me laisser faire. Et je cherche par tous les moyens à essayer de contacter la maison de disques et tout. Et je contacte Kian et il me passe le numéro de Pedro. Je lui envoie un texto. C'était une lettre d'amour de « je ne fais pas ça pour la prenez tout l'argent ». Et Pedro, il m'a répondu gentiment en mode « pas de souci », ils m'ont débloqué mon truc et j'ai retrouvé mon court-métrage et ça m'a apporté plein de trucs parce que ce court-métrage…
Ça m'a apporté pas d'argent.
Mais vraiment, en termes d'humain et de personnes qui aient envie de travailler avec moi, ça m'a apporté trop de trucs. Et ouais, je te remercie de ouf parce que tu m'as sauvé mon... Ouais, ça aurait pu faire une dépression.
Si jamais,
vrai, dépression, hein.
Si jamais, si jamais, si jamais vous avez des problèmes de musique à synchroniser, n'hésitez pas à m'appeler.
C'est ça
que le vrai, c'est un vrai service que je fournis. Connecté.
Mais en vrai, ouais, ça m'a... Parce que franchement, non, je récupérais pas ce cours. Moi, j'ai... Ah, c'était le bas quand tu mets toute ta...
Bah ouais, tu mets toute ton énergie.
T'aurais passé quoi? Bah, je pense que j'aurais...
C'est une balle, mec.
J'aurais déprimé. Je pense une bonne dépression.
Ouais, une bonne dépression.
Ouais, ouais, une bonne dépression.
T'as jamais fait encore?
Si, on a tout fait. Hein. J'ai parti de... Qui a eu la chance?
Qui a eu la chance? Je crois qu'on est... On peut... Si on n'était pas connu,
humoriste. Qui est humoriste ici?
Qui a besoin de voir la vie en rigolant? Parce que sinon, c'est trop dur et on la voit en pleurant.
Ouais,
c'est ça. Ouais, voilà. Alors, tu fais des conneries sur Insta aussi. Moi, tu m'as tapé les dents en confinement, le danseur, là.
J'ai rimé son slip.
Salut, les gars. Salut, les filles. Vous aimez faire du sport chez vous? Oui.
Ah là là, Jérémy et son slip. Une bonne vanne de slip.
Une anecdote extraordinaire. Si un jour, on m'avait dit que ces vidéos-là m'auraient attiré un partenariat pour un slip.
Quoi? Putain, la chance.
Vous verrez, mais vous verrez.
Le slip français.
Vous verrez, mais c'est trop... ça me tue. Ça me tue
derrière. Qui
c'est avec Amazon.
Avec, ils font des slips.
Les slips Amazon. Il
y a un truc arrivé. Je sais pas quand ça va sortir, mais ouais, il y a un truc. Okay. Et ça me rend heureux. Ça me rend heureux. Vous avez sonné à la bonne porte.
T'es sponsoré du slip.
Ça va être sur et autour d'un thème du slip. On m'a dit fait truc.
Ok, ok. On en dira plus. On va découvrir.
T'as des propositions beaucoup ou pas de sponsors et tout avec les.
Ouais, je travaille avec des bonnes marques qui me font plaisir.
C'est eux qui viennent à toi.
Ouais. Genre, je pense c'est pareil. C'est dû à force de faire des trucs.
C'est vertueux, c'est... de toute façon, ouais, plus tu fais des trucs, plus les gens veulent travailler avec toi, plus tu...
Et surtout, je pense, le cœur, moi, c'est des... comme par hasard, c'est des...
Non, c'est le fait que t'as abandonné, c'est vertueux plus... je t'ai vu, on peut le voir en ralenti, le moment où t'as abandonné, plus tu fais des trucs, plus il y a des gens qui veulent travailler avec toi, plus...
Plus tu fais des trucs, plus les gens veulent travailler avec toi, plus tu... Du coup, plus...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, parce que je voulais pas, te couper,
c'est ça, mais c'était marrant parce que.
Il a chanté sa voix.
C'est un cercle tellement
okay, ouais, comme ça. Comme les chansons dans les années 80.
Plus tu parles et tu vas.
Et merci, on a écouté. Jean-Jacques Goldman. Eh ben non, on passe à.
Ce qui m'a fait rire, c'est que t'avais le ton de c'est tellement simple et évident. C'est comme un cercle et t'as fait le début du cercle. C'est pas du tout un cercle, c'est un demi-cercle.
Mais ouais, non, ça, je suis content, ça travaille assez. Et puis, c'est avec des. C'est souvent des trucs que je kiffe, donc.
Moi, je suis vexé, on m'a proposé que des croquettes pour mon chien.
Pour chien. Voilà bien.
Moins 30%, ils m'ont pas dit gratuit, ils m'ont dit c'est moins 30% sur les croquettes. Est-ce que tu peux faire un code promo
Mais par contre, ouais, genre, les réseaux sociaux, genre, je pense, enfin, Instagram et tout, je pense que c'est des belles bandes démo, ou en tout cas pour te faire découvrir des trucs improbables.
On voit avec, par exemple, Laura Felpin, Anaïs Rosa,
il y a des belles histoires comme ça.
C'est des actrices incroyables qui se révèlent sur Instagram et que les gens kiffent.
Jérôme Niel, il me voit vraiment.
Pour moi, c'est les meilleurs, c'est les nouveaux flyers, les nouvelles bandes démos. Enfin, en tout cas, pour t'attirer ou en tout cas pour orienter, dire putain, j'ai envie de découvrir ce qu'il fait, s'il fait d'autres trucs.
Il y a un truc qui est très important dans ce métier, c'est de ne pas être trop loin des gens.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un réalisateur. Quand il fait son casting, il dit « Bon, alors lui, qui je pourrais prendre ? Ah, merde, je sais pas. » Et si t'es sur Instagram, toutes les semaines, tu fais une connerie et que t'es drôle, le gars, il fait « Ah, il est marrant, lui. Vas-y, t'as qu'à l'appeler, tiens. »
Ouais, genre, en fait, c'est une sorte de présence
hyper, hyper enrichissante et qui peut t'apporter beaucoup de choses, du coup.
Mais c'est chiant, parce que c'est quand même ta vie privée, souvent. Enfin, moi, en tout cas...
Mais ce que font Jérôme Niel, par exemple,
Jérôme Niel,
c'est
pas
une vie privée. Moi, c'est en mode...
C'est que c'est trop bien, parce qu'il y a une vraie création à chaque fois. Tu dis, ah, c'est marrant, regardez, on est content. Moi, si je le fais, je suis vraiment en slip et je rigole pas, tu vois. Moi, je suis vraiment, je paye le temps de m'habiller. Parce que j'ai pas... En fait, c'est trop de temps de créer un truc comme vous, là. C'est une vraie création, quand même.
Ça met du...
Enfin, une story, ça met une heure.
Tu le fais quand tu fais définition. C'est comme si tu faisais définition.
Voilà, mais pour moi, je fais du stand-up, tu vois.
Ouais, mais tu peux. À mon avis, tu peux pivoter.
Je pense, mais j'ai du mal.
Sur Instagram, tu faisais de définition et juste écris le mot sur ta story. et tu l'as fait en 20 secondes.
Je sais pas faire ça.
Mais si tu sais,
moi je défends le truc juste que tu trouves ta personnalité ou comment tu as envie de défendre.
Mais on n'est pas la même personne dans la vie, c'est un autre truc encore.
Non, moi je pense que juste tu dois trouver ta patte et ta manière dont tu vas t'exprimer sur ce réseau-là. Mais
pendant le confinement, j'étais sur tous les jours, comme beaucoup de gens, trop. Tu vois, c'est trop de direct où j'étais en train de courir face caméra.
Tu veux rigoler.
Ouais, j'ai vu, je t'ai dit.
Pour moi, c'est comme la scène, c'est dire, tu regardes mes toutes premières vidéos Insta, c'est encore un autre mec. Ouais. Et le moment où j'ai commencé à dire « Ah, moi, en fait, j'aime être en slip, j'aime danser, j'aime faire bouger des personnages, je m'assume comme je
j'aime
suis. »
J'aime être en slip.
Genre, j'aime danser, je fais mes
frères,
trucs,
moi,
ça
si
me fait rire.
En
fait, je fais ce que ça me
drôle.
Fait vraiment rire. Et depuis que je fais ça, je suis en accord avec moi-même. Et je trouve... Alors qu'au début, tu vas voir que mes premières vidéos, tu vois que j'essaye de trucs et je
ne
suis pas forcément à l'aise avec mon truc. C'est moi, mais sans être.
J'ai vraiment l'impression de reprendre une carrière d'humoriste sur Insta.
Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est pivoté.
C'est vraiment ça. C'est trouver ton clown comme tu le trouves sur scène.
Ouais, c'est ça.
Un autre sur Instagram.
J'ai les émis, elles se foutent de ma gueule tous les jours parce que je fais des stories trop longues. Genre, je la mentionne sur la première et c'est sur la deuxième qu'elle a pas. Enfin, des trucs où je suis à la flemme, les gars, on va pas commencer à cérébraliser une story.
C'est juste un code à prendre.
Ouais.
C'est un code
pas...
que tu dois choper et il y a beaucoup d'humoristes qui restent sur scène, qui sont des puristes de scène parce qu'ils n'ont pas le code pour.
Non, j'ai pas... Mais j'aime bien.
À la Verino,
j'aime
toi,
bien
Verino, il a su s'extirper Verino, tu vois. Flamme, il part
ouais.
sur YouTube avec un principe
ouais,
stand-up.
Sur Insta, il n'est pas présent. Il n'est pas
non,
en mode
Insta,
ça
c'est
va.
Vrai.
C'est vraiment Insta, hein, je ne parle pas de YouTube et tout. Insta, c'est
oui, mais c'est ça qui est marrant.
Moi, je suis mannequin sur Insta.
C'est qu'en fait, quand tu analyses le truc, un mec comme Verino, vu qu'il sait faire, dis donc, Internet, ça lui a pris du temps, etc. En fait, il saurait faire Instagram. Dedo, qui est rarement, il fait rarement de story. En vérité, quand tu regardes vu par un con, mais on dirait une story Instagram.
Mmh. Ouais.
Mais il y a ce truc de, ils le font pour un format. Et quand tu dis, mais fais-le ailleurs, le fait d'être tout seul, de se cadrer soi-même, de gérer l'envoi, ouais. de se valider, il y a un truc qui est une autre démarche.
Il y a plein de barrières.
Démarche,
alors dépasser. Qu'en fait, tu vois bien que, tu vois, Dedo, s'il faisait vu par un con, en mode un peu à l'arrache, story Instagram, ça marcherait hyper bien.
Bien sûr.
En fait, une tous les jours, mais en plus court. Ouais. Ça, l'actualité vue par un con, machin vu par un con. Dis donc Internet, pareil, juste d'en balancer une de temps en temps en disant dis donc Instagram. Fait, tu dis, mais tu l'as déjà. Ce truc, toi, moi je le vois, parce que toi, ta façon d'appréhender le truc, c'est que tu le vois encore comme une fenêtre sur ton intimité.
Ouais.
Toi, tu dis, ouais, mais c'est l'intimité et tout.
Je
alors que non.
Voilà, vous voyez
alors
tout.
Que non, c'est comme si on disait le stand-up, c'est voyeuriste,
oui,
parce que c'est une fenêtre sur ton intimité.
Non, c'est pas ça que
je choisis ce que je dis.
Moi, j'ai tendance à vite tomber dans un truc télé-réalité.
Oui, c'est ça
que je dis, je suis une autre personne
parce
sur les
le
réseaux que
ça.
Sur scène.
Ouais.
Peut-être parce que je le vois comme ça.
Alors que sur scène, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire, mais la meuf, elle explique sa sexualité, son truc, c'est son intimité.
Ouais.
C'est,
ah, je deviens vieille, quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Hein. J'ai du mal à m'adapter aux nouvelles formes de communication. En fait. Ah, c'est ça, un peu.
Bah, je pense que c'est évident vu de l'extérieur, mais que de l'intérieur, toi, ta démarche, c'est une certaine démarche et que tu n'arrives pas à voir la. Tu sais, c'est un peu comme une pensée abstraite. C'est de dire, je sais le faire, en fait. L'équivalent du micro. C'est ça, l'équivalent de monter sur scène, c'est ça dans mon écran. L'équivalent de réserver un plateau, etc., c'est poster le truc à telle heure. En fait, vous le savez déjà le faire, mais il y a ce truc de « je sais pas ». Et je pense que c'est plus une peur de pas savoir et de refuser de redébuter.
Ouais, c'est un peu ça. Je pense que c'est plus le côté début, quoi. Il y a un truc où tu dois réappréhender un peu le truc. Mais c'est intéressant.
Et que c'est
peu
gratifiant au début,
quoi.
En plus.
Parce que par exemple, j'ai plus l'impression d'être mannequin ou mettre des belles photos, tu vois. Et à dire, venez me voir au Barbès Comedy Club. Ça, tu sais, et puis, même moi, si je regardais, ça me saoulerait, tu vois.
Ouais.
Genre, une belle photo et une pub.
C'est
relou.
Le jugement qui est trop dur.
Le jugement est dur aussi.
Notre jugement est trop dur, il faut passer cette barrière.
Ouais. Mais tu vois vraiment, c'est le truc, bon, ça c'est autre chose, mais c'est la nudité des hommes et des femmes sur Internet qui m'en ouf. C'est clairement, on a presque le même corps.
On peut te rapprocher le micro.
Pardon. On a clairement le même corps, presque, tu vois, en termes de seins et tout ça. Et moi, si je me mets en slip, c'est vite supprimé, tu vois. Et
non, ça casse les couilles.
Ça fait vraiment partie
Instagram, faut arrêter
du kiff que moi j'aurais si je devais montrer sur Insta. Genre montrer ce genre de conneries. Parce que j'adore faire ce genre de conneries. Et que pour moi, justement, je peux me servir d'Insta pour faire un truc que je fais pas sur scène, qui est prendre un micro et prendre la parole. J'ai pas envie de casser les couilles sur Insta aux gens en disant on va en parler un peu du racisme. Pas. Enfin, bah non, on va couper, on va ce qu'il va faire. Donc, je préfère maîtriser ce genre de sujet. Mais sur Internet où c'est très éphémère et tout ça, j'ai envie de m'éclater à faire des trucs un peu plus foufou, tu vois.
Bah, vas-y.
Mais ouais, bon, let's go. Vous allez me voir en slip juste après la diffusion de ce podcast sur Instagram. Promis, je le fais. On verra si c'est supprimé.
Est-ce que ce serait pas le moment qu'on se fasse un petit lecture de notes?
Avec plaisir. Oh.
Lecture de notes!
Moi je pense qu'un jour je vais arrêter de travailler avec Ken, il va me virer, il va plus vouloir collaborer à cause de ce moment là où il est en train de se rendre compte émission après émission que je note plus rien, j'ai plus aucune idée. Parce que vraiment chaque fois il me regarde, t'as des notes, je suis là.
Non, mais après, tu peux participer en gonflant les notes des gens. Moi j'en ai une, j'ai un concept d'émission.
Ok.
Ça s'appelle, c'est un comedy game sur le cerveau humain. Et en fait, ce serait poser des questions à une personne ou un candidat que tu fais kiffer ou que tu mets en état de stress ou tu mets en état de machin. Et du coup, ce serait, tu poserais des questions sur, par exemple, tu mets quelqu'un dans un jacuzzi, tu le mets bien, tu lui masses les yeux et tu le mets bien.
Ouais.
Et il doit répondre à des questions super rapidement. Genre, attends, ouais, alors, tu sais, truc de ouf.
Ouais, c'est
genre,
marrant,
attends,
c'est
ouais, alors, tu lui mets de l'endorphine à fond. Après, le gars, il est ouais. Pff. Pareil, tu lui mettais en dopamine, faire des pompes en même temps et répondre à des trucs, tu vois. Il y aurait un truc un peu sportif, tu lui fais bouffer des pâtisseries. Il y a une épreuve, c'est un faux métro.
Ouais.
Genre, ce serait une sorte de cabine où tu mets, voilà, maintenant avec le Covid, c'est relou, mais tu mets 40 personnes dans 6 mètres carrés. Ça bouge partout et le gars doit répondre à des questions comme ça en mode stress, tu vois. Et donc, c'est l'hormone du stress. Et en fait, tu gagnerais des points par rapport aux molécules. Et plus tu as des molécules, plus tu arrives à gérer le stress. Donc, moins tu as de stress, moins tu as de malus. Et plus tu as de dopamine, tout ça, plus tu as, tu vois. Donc, c'est une question de... Il faut être heureux dans la vie. Et pour être heureux, il faut lutter contre le stress et se faire des kiffs. C'est un peu la philosophie du truc, tu vois. Et j'avais quoi? J'avais...
Je crois que j'avais vu un truc au Japon où ils font ça et tu te fais sucer, je crois. Tellement ils sont
dans un délire, les Japonais. Ouais,
ils sont en Japon, vraiment.
Ça doit être trop marrant.
Le gars se fait pépon, il est là, on lui pose des questions, il fait « Oh non
!» C'est trop drôle.
Je savais plus si c'était juste une vidéo comme ça que j'avais vue.
Non, non, non,
parce que j'ai jamais vu cette scène. C'est quoi, juste un truc de cul?
J'imagine c'est un piège. Ouais, je connais, je fais « Bah, c'est sur Pornhub !» Il m'a dit « Pornhub !»
Tu vois, des questions de rapidité avec des chiots aussi. On te met des petits labradors et tout, et t'es là genre « Oh, il doit répondre !» J'ai fait « Oh, mais c'est trop kiffant, j'ai pas envie de... » Tu vois.
Mais c'est une bonne idée.
Non ?
C'est une bonne idée.
Tu trouves que c'est une bonne idée ?
Ouais.
Allez, on le fait.
On le fait maintenant.
Et l'adrénaline, ouais, l'adrénaline, t'as adrénaline pour travailler sur l'adrénaline. Mmh. Tu mets une personne que t'adores, genre une star que tu kiffes, de ouf, et elle arrive en face de toi et elle te pose des questions. Alors tu poses et là,
j'avoue, ça, c'est.
Tu vois,
c'est déstabilisant de ouf.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Ta mère qui crie à l'aide, t'enregistres la mère de la personne qui hurle à l'aide, aide-moi !
Ah oui. Mais tu sais, il y a le stress aussi. Tu crois que c'est une torture.
Est-ce que
tu
arrives à répondre à des questions en entendant ta mère, la voix de ta mère qui dit « Je t'en supplie, arrête de répondre à des questions !»
Ils font faire des pleurs de bébé pendant ils faisaient des pleurs de bébé parce que c'est genre, c'est strident de ouf.
Mais je crois que c'est pas parce que ça rêve. Les pleurs du bébé, instinctivement, ça crée un vrai truc dans le cerveau.
C'est genre du stress. C'est une technique de torture, je crois.
Oh la violence.
Ouais, c'est horrible.
Attends, en te faisant frapper aussi, peut-être. Genre, il y a quelqu'un qui te frappe dans le ventre et dans la tête. Et tu dois répondre à des questions.
Ouais.
Ils font ça à Guantanamo.
J'écoutais
trop sérieusement.
C'est pas le même genre de questions. En tout cas, voilà un petit un comedy game que j'aimerais faire un jour.
Ou le truc, je sais pas pourquoi je pense à ça, une cage dans le vide. Genre, t'as peur du vide et que si tu réponds une mauvaise truc, la trappe s'ouvre.
Ah, ouais. Mais t'as pas de parachute.
Moi, j'aimerais bien ça, mais dans des clubs. Des mauvaises vannes. Genre, appuie sur la salle. Et pas nous, là, le public, vraiment, je suis. On se corde.
Tu aurais t'as des notes ?
Ouais, j'ai des notes. Et vraiment, elles sont marrantes de ouf parce que le 7 août 2020, là, je suis tombée. Je crois que mon dealer m'a vendu du CBD.
Du coup, je l'ai fumé, mais je lui en veux pas trop.
Ouais, c'est ça.
Genre, je suis en mode.
J'ai juste eu la force de noter cette phrase. J'étais pas assez fâchée. Du coup, oui, il y avait ce truc aussi. C'est toute l'idée de que les gens cet été m'ont rendu assez ouf avec l'idée de mais pourquoi t'es pas allé en vacances, tu pars pas en vacances. Alors que les gens aillent, j'ai pas jugé ça. Mais je leur ai rappelé, les gars, il y a une pandémie mondiale. Vous me demandez pas pourquoi j'ai pas été en vacances, quoi. C'est bizarre que je dois me justifier de pas être parti. Ça m'a fait beaucoup rire.
On a pas eu les rentrées. Par contre, moi personnellement, j'ai pas eu septembre. Oh bah t'es pas bronzé.
Oh bah, non, non,
tu vois,
ah
oui, ouais, c'est ouais. Fini ça. Ça,
ah
ça,
bah,
ça
des masques et tout. Ouais. Ah oui, et j'ai écrit un truc, mais là c'est commence à être un truc que je fais sur scène en fait. Parce que tu sais, il y avait le film Tout Simplement Noir qui est sorti, et genre on n'a pas arrêté de me demander pourquoi j'étais pas dans le film. Je trouvais ça super raciste. De ouf. Ah, moi, j'ai rien un film pour les noirs, tu l'as raté. Et j'ai dit, mais hey, les gars, je suis lesbienne, on m'a jamais demandé pourquoi t'es pas dans la vie d'Adèle. Tu vois.
Alors qu'à choisir,
j'aurais préféré. Donc, il y avait toute cette idée sur, les critiques ciné. Ah oui, que les blancs peuvent pas critiquer le film. J'ai beaucoup vu de.
Tu crois ? Ah oui, que du coup, les journalistes blancs se disent.
On s'est dit, ça s'enchaînait beaucoup avec la manif des violences policières. Tu vois, il y a eu un enchaînement.
C'est
là où on adore. 4/5.
Mais en même temps, c'est bon signe, je pense. Parce que c'est comme si, pour une fois, les journalistes disaient, c'est pas moi qui vais juger.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même de la bien-pensance, tu vois. Non, c'est parce qu'il n'y a vraiment aucune mauvaise critique.
C'est plus de la bien-pensance.
Tout le monde a aimé le film. C'est incroyable. Et pourtant, il ne fait pas des entrées incroyables.
Oui, parce que j'imagine que les critiques, ce n'est pas des journalistes, des critiques qui disent « Pour savoir, nous avons interrogé machin, machin et machin. » Il dit juste « C'est formidable, c'est
noir. » Oui, c'est ça, c'est excellent. Ouais. Film du siècle. Donc, ouais, toute cette idée de « Pourquoi t'es pas dans le film ?» Et ça me faisait trop rire parce que les gens... comme si, genre, ma présence était nécessaire pour que le film fonctionne. Vraiment, je suis pas dans beaucoup de comédies. D'ailleurs, je suis dans aucune et le cinéma va très bien, donc vous inquiétez pas. Quoi. Ouais,
mais parce que tu fais partie des rares noirs connus, en fait.
Oui, bah, c'est ça, oui.
Donc, ils se disent « Bah attends... Pourquoi t'es pas dedans ?»
Est-ce que tu t'es dit ça ? Pourquoi je suis pas dedans ?
Bah, à force qu'on me pose la question. Avant, non. Pourquoi je suis pas dedans ? Et comme si on me retirait ma carte de noir. Bah, t'es plus noir, du coup.
Alors, je lui ai demandé, c'est parce qu'il est timide, en fait. Les gens qui l'adorent.
Ah oui, c'est vrai.
Il pas.
Il les appelle. Et, lui, et du coup, il m'a appelé. J'ai raconté au passage. Qu'il m'a appelé pendant le confinement pour me proposer une série, un tournage de série cet été. J'ai découvert qu'il tournait cet été grâce à Boone, qui était en story. Je fais, mais mec, tu m'as pas rappelé. Et ce qui m'a fait trop rire, c'est qu'il m'a. Tu m'as proposé un rôle que j'aurais certainement refusé. Mais Jean-Pascal, je l'adore en plus. Mais là, il a déconné. Et il m'a dit c'est pour jouer le rôle d'une fille un peu Gwyn. J'étais là, mais un peu à quel niveau de Gwynas on a affaire ? Quel pourcentage ?
Il y a des levels.
Il a dit
un peu Gwyn. Donc j'ai développé tout un truc là-dessus, sur scène. Là, ça y est,
mais il est très marrant, tout simplement, noir. Très, très
bon. Très,
ouais, Gollery,
vraiment mérite.
Il y a une scène surprenante. Il y a une scène culte.
Avec Fabrice Eboué. Oh,
elle est magnifique.
Ouais, on attendait ce truc-là.
Elle m'a détruit cette scène.
Jérémy, t'as des idées ? Des petites notes que t'as ? Des petits trucs vite fait.
Ouais, je suis tombé sur une petite note. Je ne sais même pas à quel moment je l'ai écrit. Ça s'appelle hashtag qui a tué François Fillon.
Moi, François Fillon, ça me fait toujours réaliser.
Je sais pas, j'ai noté ça en mode article. Il y a un témoin affirme avoir vu un mec paniqué près du corps de François Fillon. Il s'est enfui en direction des sourcils et a disparu. En ce moment même, la police ratisse à l'aide de chiens les sourcils de François Fillon.
Je ne sais pas. Dans quel cadre ?
Genre le gars, il a tué. Le gars a tué François Fillon. Il s'est caché dans ses propres sourcils. C'est ça ? Personne ne le retrouve.
Et je ne sais pas dans quel cadre.
On dirait que tu prends des substances quand tu écris des trucs comme ça, c'est drôle. Alors que pas
j'avais écrit, chewing-gum, cerveau, et je ne sais pas pourquoi.
Ah, ça, c'est relou quand tu ne sais plus.
Moi, je n'ai pas noté une seule blague, mais j'ai noté un truc, en fait, un fun fact. C'est qu'en fait, c'est des mecs qui bossaient sur les lasers pour complètement autre chose. Tu sais, ils étaient là. Et on va découvrir le trillionième de la vitesse de la lumière grâce à ce laser qui va nous permettre d'accélérer des particules. Vraiment, ils étaient dans un délire. Et il y a un des gars qui a oublié de mettre son masque. Et ça a fait ptiouf dans son œil. Du coup, ça lui a cramé l'œil. Il est allé chez l'ophtalmo, forcément, en disant « mon œil !» Et le gars a dit « Mais vous travaillez dans quoi ? Vous faites quoi exactement avec les lasers ? Parce que la brûlure, elle est parfaite. Et c'est comme ça qu'ils ont amélioré, voire créé le... »
La myopie ?
Le fait d'enlever la myopie avec un laser.
C'est ça, ah, il s'est auto-guéri ? Mais non.
Non, il ne s'est pas auto-guéri, mais c'est qu'en fait, l'ophtalmo, quand il a regardé, il a fait « Mais on n'arrive pas, nous, du tout, à toucher la cornée de cette façon. » Ce mec, c'est parce qu'il n'a pas mis de masque. Et il y a de fortes chances qu'ils aient pas trouvé cette technologie avant longtemps, quoi. Parce que c'était par erreur qu'il s'est mis un laser dans l'œil.
Trop stylé.
Ah, c'est trop ouf.
Du coup, tu dis, il y a un truc à faire, tu vois, un truc un peu poétique, un truc un peu...
Un vrai fun fact.
De dire, le mec...
Généralement, c'est l'accident.
Il a fait la meilleure erreur de sa vie, quoi. Il a fait une erreur.
Les accidents, pardon, ça crée beaucoup d'inventions. Moi, j'avais jamais vu cette vidéo horrible du mec qui a essayé le premier parachute.
C'est vrai ?
Qui sur la Tour Eiffel ?
Ah, j'ai jamais
je sais pas
vu.
Pourquoi je rigole, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Mais bah, il se rétame, putain.
Il est mort d'ailleurs. Il est mort. Du deuxième étage de la Tour Eiffel.
En fait, ce qui est drôle dans la vidéo, le plus drôle, c'est pas du tout le fait qu'il chute, c'est ce qu'ils disent avant. C'est qu'ils disent, il ne le sentait pas du tout. Et en fait, il ne le sentait pas. Il a dit, je veux pas y aller. Il a dit, vas-y. C'est toute l'équipe.
Ah, genre
en
mode, tu peux te rendre
à la caméra là.
Tu connais les bobines, ça allait venir d'un.
Il y a quand même une question que je me pose dans ce genre de truc, c'est mais pourquoi tu le fais pas juste avec un mannequin ? Pourquoi ils l'ont pas.
C'est vrai.
Tu imagines, ils sont derrière, regarde, ils font. On aurait dû essayer avec une brique.
Mais il n'y a pas un processus de déclenchement.
Si, quand même.
Bah oui, mais bon, tu trouves.
Non, au début,
à l'époque, c'était pas. À l'époque, c'était pas un truc que tu
sautes. C'est juste, tu sautes et le truc avec le vent, il s'ouvre.
Bah franchement, jette un truc qui fait le poids d'un gars pour voir quoi. Si ça tombe vite, tu fais. Hop, on va peut-être pas essayer tout de suite avec un gars.
C'est un délire. Hein.
J'imagine qu'ils ont essayé avant.
Et tu le vois comme ça, il fait comme ça, il veut pas y aller, tu vois. Ça dure trop longtemps.
En fait, il sait qu'il va mourir.
Il le sait, ça se voit qu'il le sait. Mais il y a une chance sur.
Mais pourquoi il essaie quand même ? Mais pourquoi il essaie quand même, on sait ?
Parce que tout le monde le regarde, ça se voit.
C'est la pression.
C'est vraiment.
Ah, mais même franchement. Tout le monde te regarde. Okay,
en plus, tu vois que c'est filmé 1920, genre, et c'est hyper rapide, ça fait boum, c'est fini. Ça fait vraiment comédie, quoi.
Ça fait comédie, c'est vrai, il y a un
noir et blanc ramène une sorte
de comédie, c'est un peu accéléré par
Chaplin,
le...
Ouais, c'est les premières vidéos des mecs qui testent les premiers avions, c'est pas ça ressemble à des hélicoptères et tu dis mais les êtres humains on est des fous, genre ils disent je vais monter dans cet appareil en fer et c'est
tout a l'air d'être dangereux et tu vois que le truc ça bascule dans tous les sens et ça a l'air d'être trop drôle alors que le mec il est grave en danger en fait. Mais c'est trop marrant.
Ça fait carton.
Est-ce que vous avez un petit truc à recommander, une petite recommandation, un film, un documentaire, mm-hmm.
De la musique,
un livre, une endroit dont vous êtes gérant peut-être.
Une coupe de cheveux.
Moi je suis une petite série en ce moment qui me donne une petite pointe de nostalgie, Cobra Kai.
Cobra Netflix, Kai.
Avec les mecs Karate Kid. Et au début, j'ai la flemme et c'est vraiment. Je kiffe. C'est vraiment bon délire.
Bon, ouais, du coup, en mode série, là, il y a un truc que j'ai kiffé, c'est I May Destroy You, de la fille qui a fait la série Chewing Gum. Je cherchais son nom là, je sais pas comment s'appelle cette actrice.
Ah oui, je vois.
I May Destroy You. J'en suis au 5e épisode. C'est hyper intéressant parce que tu vois de l'intérieur comment une personne qui a subi un viol s'en rend compte au fur et à mesure des jours et que c'est pas genre tout de suite. Et c'est ouf parce qu'elle est dans une justesse de ouf où t'es pas dans le drame total. Enfin, tu vois, il y a aussi de l'humour. Enfin, il y a la vie, quoi. Il y a pas un truc de... C'est comme la façon dont t'en rends compte, même la façon dont t'en rends compte, t'as un petit sourire bizarre. Et ça, c'est fort, je trouve, sur un sujet aussi tendu, quoi. Bref, c'est un truc qu'elle a vécu, donc tu sens qu'il y a une part même de stand-up, d'authenticité dans sa façon de traiter de réaliser le truc. Et cette série est vraiment chouette, hein. Vraiment, vraiment cool. I May Destroy You.
Il y a une série que je recommande qui s'appelle Devs, qui est disponible sur OCS. Donc allez vraiment voir, c'est top, c'est hyper, c'est un peu un thriller, un peu inquiétant, mais vraiment stylé et vraiment bien, bien, bien comme il faut. Bien, belle surprise.
Moi, si je fais pas cette promo, je m'en voudrais toute ma vie. Catégorique sur YouTube.
Qui c'est
ma sœur.
C'est ce que tu produis, c'est une meuf que tu.
Pas du tout, c'est une femme que j'ai rencontrée, un être vivant que j'ai rencontré où je me suis vue.
C'est un peu une jumelle.
C'est un peu une jumelle rappeuse, tu vois. Et donc ça fait des années qu'on me dit, mais tu fais du rap toi. Et je suis là, mais non, vous êtes raciste. Et en fait, moi, il y a vraiment une meuf qui me ressemble.
Elle te ressemble vraiment.
Vraiment beaucoup. Mais elle a fait un film où je pensais que c'était moi qui avais joué dedans. J'ai pas compris, à quel moment j'ai joué dans ce film.
Si elle arriverait au début de ton spectacle, les gens feraient.
J'ai vu un de ses concerts il y a pas longtemps et c'était trop drôle parce qu'à la fin du concert elle m'a dit bravo, elle venait à peine de sortir de scène et je suis dans le public quoi.
Mais
les gars, comment tu penses que je...
t'avais partagé un truc ou c'est elle qui commence elle est forte de ouf.
Elle est très forte, bah oui, t'avais kiffé. On sort d'ailleurs très prochainement, quand l'émission sortira, ça sera sorti, le deuxième clip, un deuxième cypher. En fait, elle réunit des rappeuses du monde entier et ils font des morceaux qui durent 7 minutes.
Chambé.
Et là, le deuxième cypher qui arrive, il est dingue. Je fais le montage de ce cypher. Donc, que des meufs qui se sont filmées en selfie et je vais faire un clip avec ça, je sais pas comment faire. Mais en tout cas, voilà, on est sœurs de fou, on essaie de faire des projets ensemble et elle a un nouvel album qui s'appelle Aquaba dans lequel j'ai fait les interludes. C'est une daturiste qu'elle fait, je le kiffe, big up la Sista.
Et t'as fait un documentaire sur le stand-up aussi, filmé à l'iPhone, qui est disponible sur YouTube.
Ouf, c'est vrai.
Est-ce que vous avez passé un bon moment?
Oh oui.
Bon, est-ce que je peux me permettre de vous offrir un abonnement à MyCanal?
Oh, carrément.
Trop bien.
Ça vous fait plaisir?
Ouais.
Alors c'est parti.
Waouh. Après, il y a quoi? Moi, je pensais à une liste de cadeaux. Après, on ne peut pas consacrer un cadeau comme ça.
Si ça vous fait plaisir, ben voilà.
Ouais, trop bien, merci.
Il y a de l'alcool aussi, tu vois. Il y a l'alcool.
Ah, voilà.
S'ils ont l'abonnement MyCanal, c'est-à-dire qu'ils peuvent regarder 60.
Ouais.
Ils peuvent regarder 62.
Derrière un micro.
Derrière un micro. Derrière un micro 2.
Ouais. Bref, bloqué. Oui. Narvalo qui vient de sortir, le bureau des légendes.
Bah oui, c'est chambé le bureau des légendes.
Engrenage, Versailles.
Engrenage, elle est dedans.
Engrenage.
Young Pop. Le bureau des gens, c'est quand même un des meilleurs trucs du monde.
Il y a du lent là maintenant sur Canal, je trouve.
Hein,
mais il Destroy You, c'est pas sur Canal d'ailleurs.
C'est sur OCS, je crois.
Okay. Quoi donc?
Ouais, mais OCS, c'est dans le bouquet Canal.
C'est ça, ouais, c'est ça.
OCS sur MyCanal. Donc vous allez avoir ça va être cool. Et bah, top.
Merci.
Prenez soin de vous. Ah oui, on a créé aussi, si vous voulez nous aider, ou même si vous voulez vous faire plaisir, c'est produit par FKLG, qui veut dire faire kiffer les gens. On a créé une bonne boutique.com. Qu'est-ce que c'est une bonne boutique.com? C'est tout un merch qu'on a fait. Donc il y a le merch de Bref, de Bloqué, de Serge Le Mytho. Voilà, on a fait plein de petites choses, les mugs à un bon moment et tout. Si vous voulez, si ça vous fait kiffer d'avoir un petit mug, un petit truc cool, et on a travaillé avec des artistes. Vous avez vu, il y a des cadres dans l'émission qui sont là derrière et tout. Si vous voulez faire kiffer les gens, ben n'hésitez pas à vous faire des cadeaux et ça nous aide à produire les émissions de notre côté aussi et vous fournir encore des contenus un peu gratuits.
J'essaie de voler des trucs.
Donc allez sur unebonneboutique.com et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Prenez soin de vous.
Est-ce que grâce à cette boutique, les gens vont du coup maintenant se rendre compte que la phrase « Un jour je suis né, depuis j'improvise » est de toi?
C'est vrai, oui, bah oui.
Parce que je la vois partout, cette phrase.
C'est vrai,
mais oui, genre elle est tellement efficace.
Mais je la vois.
C'est vrai que j'ai vu quelqu'un.
Ça m'a dépassé, ça m'a complètement dépassé.
Dans des bios Instagram, je suis déjà allé chez une meuf et elle avait un cadre avec écrit « Un jour je suis né, depuis j'improvise ».
C'est fou.
Et je dis, mais quoi, mais pourquoi? Elle fait, bah, je sais pas, c'est une phrase que j'aimais bien, que ma machine m'a fait. Je l'avais pas écouté. Je connais le créateur de cette phrase.
En mode, en mode et ça devient un truc universel. Et...
Bah ouais, ça m'a dépassé, donc je suis ravi, je suis content. Ça fait plaisir. J'étais tombé sur une blogueuse qui avait appelé son blog un jour, je suis une improvise.
Et elle lui a donné 1 million.
Le premier truc qu'elle avait marqué, c'était « Il est interdit de recopier ce que je fais.
» Même parce que je pense que les gens se sont dit, elle a tellement circulé la phrase que c'était juste un proverbe.
Il y a des beaux prints qu'on a travaillé sur la boutique. Il y a plein de choses qu'on a travaillé dans une belle équipe sur une boutique.
Et qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est de toi aussi.
Et il y a quoi d'autre de Pierre moi Caron, il y a Liberté, Égalité, Fraternité.
Ouais.
Allons mais enfants non. de la patrie, le. Mais non, j'ai quand même.
Ah ouais, je croyais.
Non, c'est la nation française, ça, okay. C'est pas moi.
Non.
Je pense qu'on devrait d'ailleurs changer sa Liberté, Égalité, Fraternité parce que je suis pas vraiment. Je pense qu'on devrait. On devrait dire. Au lieu de dire fraternité, on devrait dire tolérance. Mm-hmm. Parce que.
Si on y arrive.
Tolérance, mais tolérance, ça veut dire ça te fait chier, mais faut que tu t'y fasses.
Parce que tolérance. Non, ça sous-entend qu'il faut tolérer les choses.
C'est ça la tolérance, c'est tolérer.
Delphité, c'est la fraternité et la sororité. C'est
la Delphité, j'ai
dit. Ouais, je crois que c'est ça, non c'est
je Delphité, pense qu'en plus, ça sonnerait mieux dans un son.
Et au lieu d'égalité, Delphité. Je dirais équité.
Ouais.
Oui,
ça serait peut-être mieux.
Ouais, y avait
que
une belle...
Égalité, ça veut vraiment dire tout le monde touche la même chose.
Quoi qu'il arrive, alors qu'il y a une belle illustration où tu vois des gens qui sont face à une fenêtre. Et en fonction des besoins d'un mec qui a une petite taille, on va lui donner 2 cartons. Pour
mais en plus, c'est déjà le cas en France. Ouais. On a beaucoup d'aides qui sont des aides équitables et non pas des aides égalitaires.
Ouais.
Donc, ça peut être intéressant.
Égalité, juste liberté. Ça serait ça, moi. Liberté.
Liberté, liberté, liberté.
Liberté, liberté, liberté.
On garde liberté, c'est trop
bien. Liberté, de ouf.
Liberté, c'est stylé.
Merveilleux.
De ouf.
Prenez soin de vous. À la semaine prochaine et soyez sympas.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.